Il y a un kalvachomer dans la Gemara dans Kiddushin. Il y a un raisonnement de a fortiori. Quand on dit, d'abord la Gemara elle dit, si déjà les animaux qui ont été créés pour servir l'homme, d'accord, alors eux, Hachem leur donne à manger tous les jours. À plus forte raison, l'homme qui a été créé pour servir Dieu, alors que Dieu va lui donner à manger. C'est une logique de moyen. D'accord. C'est comme si quelqu'un... Pourquoi on fabrique des voitures? Parce qu'il y a de l'essence. S'il n'y a pas d'essence, on ne fabrique pas des voitures. Donc maintenant, si la société elle a compris qu'on ne peut pas faire des voitures s'il n'y a pas d'essence, alors pourquoi est-ce que le bon Dieu, il va créer un homme s'il ne va pas lui donner à manger? Ça veut dire que c'est quelque chose d'évident. C'est une logique kalvachomer. Parce que si déjà le moyen, on lui donne les moyens, puisque l'animal, c'est le moyen de l'homme, et au moyen, on lui donne les moyens, à plus forte raison, le but, on va lui donner les moyens. C'est une logique. D'un autre côté, c'est marqué « Imen kemar en Torah ». C'est marqué en Pirkei Avot. S'il n'y a pas de kemar, s'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Quelqu'un veut étudier la Torah, monsieur, il veut faire des mitzvot. Oh, il faut manger tous les jours. D'accord. C'est aussi marqué chez Tianim, « Melachat ha'ase ». Pendant 6 jours, tu dois faire ton travail. Et le 7e, tu vas manger. C'est marqué « Celui qui n'a pas travaillé la veille de Shabbat, il ne mangera pas Shabbat ». C'est marqué aussi « Ase shabbatecha chol ve'al tistar la veriot ». Il vaut mieux que tu fasses un Shabbat qui ne soit pas un beau Shabbat, mais ne sois pas dépendant des autres de vivre de la tzedaka ou de la bonté. Va travailler, va faire ta part dans ça, que tu ne sois pas obligé de dépendre des gens. Alors c'est compliqué. D'un côté, on voit que la Torah, c'est tellement important, et d'autre côté, on voit que la parnassa, c'est quelque chose qui est réel, qui est concret. Alors c'est un peu bizarre. Alors le Midrash, il rapporte que Adam Harishon, il était dans le Gan Eden. Pourquoi il était là-bas? C'est marqué le Ovda ou le Shomra. Pour le servir et pour le garder. C'est quoi ce principe? Qu'est-ce qu'il avait à faire à Adam Harishon dans le Gan Eden? Il n'a rien à faire. Il avait une seule mitzvah, de ne pas manger le Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance. Tout le reste, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait rien. C'est marqué dans le Midrash qu'il y avait des anges qui labouraient la terre, des anges qui faisaient pousser les arbres, les anges qui cueillaient les fruits, qui faisaient le jus de fruits. Il n'y avait rien à faire. Il s'est marqué le Ovda ou le Shomra. Il avait juste à servir Dieu, à étudier la Torah. C'est la seule chose qu'il avait à faire. Après, la Torah nous raconte qu'il a fauté. Maintenant qu'il a fauté, c'est marqué Beziat apecha tochal lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras le pain. C'est bizarre, cette punition, elle est bizarre. Maintenant, Adam Harishon, c'est quoi? C'est l'homme. Parce que toutes les Neshamot, elles étaient à l'intérieur de Adam Harishon. Donc maintenant, c'est le modèle de l'homme. Maintenant, cet homme-là, il a tout. Il a tout ce qu'il lui faut. Il a tout. La seule chose qu'on lui demande, de servir Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il faute. Alors, comme il faute, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, tu dois continuer à servir Hachem, mais en plus, il va falloir que tu travailles pour manger. Alors, c'est bizarre, parce que où est la punition? Ben, quelqu'un, il fait une bêtise. Tu lui mets une tannée, tu le frappes, ou tu lui fais payer une amende. Non. Il dit, maintenant, tu vas travailler. Sous-entendu, si tu as trouvé assez de liberté pour pouvoir travailler, ouais, ça veut dire que malgré ce qu'on t'a donné comme but, il t'est resté du temps pour faire des bêtises. Alors, on va t'augmenter ton travail. Parce que sinon, ok, quelle est la notion de punition? On voit la punition. C'est la klala, la malédiction qu'il a reçue à Adam Harishon. Mais il y a pire comme malédiction. Caïn, quand il a tué, on a dit Narvenad. Maintenant, il va rester toute sa vie jusqu'à sa mort. Il va être une personne qui va errer comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Et là, on comprend qu'il y a une punition. Mais là, où est la punition? En plus, nous, on sait très bien que la notion de punition pour la punition, punir pour punir, dans la Torah, ça n'existe pas. Ouais, kol onesh baletaken. On dit toute punition, elle vient pour réparer quelque chose. Alors, en quoi ça répare? Là, il y a une machloket, il y a une discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael dans la Gemara Brachot. C'est une Gemara incroyable. Là-bas, Rabbi Ishmael, il a dit, si l'homme, il va, c'est marqué, vers Asafta de Ganecha, tu ramasseras tes céréales. Donc, il dit à un homme, comment c'est possible? Un homme, il doit travailler. Vous savez, aujourd'hui, c'est facile, tu vas au supermarché, tu achètes la marchandise. Ouais, tu fais des téléphones, tu gagnes de l'argent. Avant, quelqu'un qui voulait manger, il n'y avait pas de business, il n'y avait rien. Tu veux manger? Alors, il faut que tu ailles labourer la terre. C'est dur de labourer la terre. Vous avez déjà, rien qu'un coup de bêche, déjà, tu as mal au dos pendant une semaine. Imagine, maintenant, tu dois faire un champ de 800 mètres de long. Ouais. Tu dois labourer la terre. Après, tu dois mettre la graine. Après, tu dois retourner la terre. Après, tu dois arroser. après tu dois faire attention, après tu dois moissonner, après tu dois vanner, tu dois écraser, vanner, trier, après prendre la farine, écraser, et après tu fais tes halot. C'est quand même plus simple d'aller chez le boulanger et de demander une baguette. Donc même aujourd'hui, on dit, oh, vous savez, le travail, c'est pas facile. Mais quoi, facile, pourquoi? C'est plus facile aujourd'hui de gagner 10 000 euros qu'à l'époque de gagner 100 francs. C'est pas du tout la même chose. Alors là-bas, la Gemara, elle dit, c'est marqué, vers Asafa de Ganecha. Donc, parce que tu récolteras ton blé. D'un autre côté, c'est marqué, vers Gito Bo Yomam Valaila, qu'un homme, il doit étudier la Torah jour et nuit. Alors tu dis, comment c'est possible? Comment les deux sont compatibles? Alors Rabbi Ishmael, il a dit, Aneg Ba'en Minag Derecheret. Aneg Ba'en, conduis-toi dans eux, ça veut dire dans les divrei Torah. Minag Derecheret, le chemin de la terre. C'est quoi le chemin de la terre? C'est qu'un homme il travaille. Tu travailles. Oui? Donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Un homme il doit étudier la Torah jour et nuit. D'accord? Et dans son étude de la Torah, il doit prendre un temps pour la parnassa. Ce qui est exactement le contraire de ce qu'on fait nous. Vous avez compris? Parce qu'il a dit Aneg Ba'en, Bedivre Torah, dans les Divre Torah, dans l'étude de la Torah, dedans, tu vas faire le Minag Haaretz. Le Minag Haaretz de travailler. Ça, c'est Rabbi Ishmael. D'accord? Et bien, les gens, avant, ils étaient comme ça. Moi, ma mère, elle me raconte, les grands-parents et tout, ils avaient un magasin, ils avaient. Mais ils étudiaient toute la matinée. Après, ils faisaient le Mincha. Après, ils allaient ouvrir le magasin pendant 2 heures. Après, ils allaient au Drash là-bas. Après, ils faisaient Arvit. Après, ils allaient dormir. Et grâce à Dieu, ils sont revenus avec des lingots d'or. L'autre, il se lève le matin à 4 heures. Il prépare le planning jusqu'à 8 heures. Après, il va au travail. Après, de 8 heures jusqu'à 15 heures, il se bat avec les fournisseurs. Après, de 15 heures jusqu'à 19 heures, il se bagarre avec les clients. Après, il va vérifier sur Internet qu'est-ce qui s'est passé. Après, il prépare le planning du lendemain. Et après, il va dormir. Il ne gagne pas plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension que des fois on n'arrive pas à comprendre. C'est quoi? C'est la différence entre l'investissement et le résultat. Les goyim, ils appellent ça l'efficacité. Oui? Nous, on appelle ça la bracha. Il y en a, ils ont la bracha. Oui? Il y en a, ils ont la bracha. Il fait un petit truc, clac! Et l'autre, il bouge, il remue des mondes, il crée des trucs, il fait des salons, il crée des projets immobiliers, 60 millions de chiffre d'affaires, 85 millions de chiffre d'affaires, 180 millions de chiffre d'affaires. Combien t'as gagné? Wallo! Eh ben, ça n'a pas marché, le dollar il a baissé, la marchandise n'est pas partie, on avait mal évalué la communication, il y a eu des grèves en plein milieu. Pourquoi? Parce qu'il manque un élément qui n'est pas enseigné dans les écoles de commerce, qui s'appelle la bracha. Il n'y a pas la bracha. Tu montes, tu descends, il n'y a pas. C'est comme ça. L'autre, il a un produit de folie, il ne gagne rien. L'autre, il a un produit pourri, il gagne de l'or. Tout le monde sait que son produit est pourri. Les fournisseurs le savent. Les clients le savent. Tout le monde le sait, il gagne des milliards. C'est un produit pourri. Même lui, il le sait. L'autre, il a un produit en or, il n'y a pas la bracha. Quand il le sort, on lui dit, vous êtes trop en avance sur le marché. Après, finalement, quand il arrive à percer le marché, il a été copié par les Chinois, il y en a 100 millions qui arrivent en même temps que les siens. Ils le vendent au cinquième du prix. Lui, il a investi dans la recherche. Eux, ils le copient. Donc, c'est facile pour eux. Ils meurent. Après, finalement, ils rentrent dans le marché, ça marche. Manque de peau, le dollar, il baisse trop. Du coup, ça marche, elle disparaît. Oui, après finalement il commence à exploser, le meilleur vendeur, il part avec le fichier client, il fait la même chose, le même produit, avec, en changeant une lettre, et il installe la maison mère en face de la sienne. Comme ça quand il voit en face, il a l'impression d'avoir sa mère en face de lui. Oui. Pourquoi? Il n'y a pas la bracha. C'est incroyable, non? Il n'y a pas la bracha. Bon, les goyim, ils appellent ça la baraka, ça change rien, c'est la bracha en hébreu, ouais. Pas la baraka, tu montes, tu descends, il n'y a pas. Alors ça, pourquoi? Alors, il dit, ça c'est Rabbi Ishmael, il a dit, un homme, dans l'étude de la Torah, il doit fixer un temps pour travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a dit, mais d'où il vient cette obligation de travailler? Elle vient de la malédiction de Adam Arishon. Adam Arishon a été maudit, oui, qu'il est obligé de gagner son pain à la sueur. Il a dit Rabbi Shimon, cette malédiction ne me concerne pas. C'est pas parce que mon arrière-arrière-arrière-grand-père, il a fait une bêtise que moi je vais la payer. Il a dit, lui, c'est ça. Il m'a aussi, ok. Bisman, chez Bnei Israël, aussi me reste dans Makor. Tant que les Bnei Israël font la volonté d'Hachem, mais l'artan n'a assis à l'idée d'Acherim. Leur travail n'est fait par d'autres. Ouais. Mais Bisman, chez Enav aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Reste dans Makor. Mais au moment où ils ne font pas la volonté d'Hachem, alors eux, ils travaillent pour l'égoïme maintenant. Oh Hachem, Dieu il a créé 6 milliards de goyim. D'accord? Donc c'est normal que les juifs soient grossistes. Ça sert à rien d'être détaillant. C'était repris par Coluche. Oui, très Coluche. D'accord? Ça veut dire pour gagner de l'argent. Même si tu prends 1 dollar par goy, tu vas être milliardaire. Comprenez ou non? Pourquoi tu veux faire petit fait grand? Tant que tu dis non, moi ça m'intéresse pas. Moi je veux travailler. Tu vas travailler pour l'égoïme. Tu vas devenir fonctionnaire, ou la trélovée de baba, ou l'agent de police. Toute ta vie, tu as gagné tes 65 dollars par semaine, comme un brel, et tu es mort dans la misère. Pourquoi? Parce que toi, tu as une fonction spécifique. Tu as quelque chose à apporter. Tu es un peuple de prêtres. Les prêtres, même en Égypte, depuis la création du monde, les prêtres, ils sont toujours nourris par le peuple. Même chez les goyim, les prêtres, ils ne travaillent pas. Même en Égypte, les prêtres, ils ne travaillaient pas. Et toi, Pitom, que tu es juif et tu es prêtre de tout du monde entier, tu veux travailler. Alors tu vas faire un travail plus débile que le goyim. C'est incroyable. Et c'est ça, c'est un grand yetzirara du juif qui veut aller chez les goyim et leur montrer qu'il est meilleur qu'eux. Il va se donner toute sa vie pour être le meilleur médecin, le meilleur mathématicien, le meilleur à la bourse ou la Bloomberg ou la... Ouais, le meilleur au cinéma, le meilleur... Mais je vous dis tout de suite, le goy, quand on est meilleur que lui, ça l'énerve. Devient antisémite. Oui? Oui? Et te remarque. Sois un bon juif et fais une part d'un sein normal. Non. Je veux les rendre jaloux. Je veux les éclater. C'est une maladie, ça s'appelle Coco. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne... Oh, il y a quand même des gens qui réalisent. Donc il y a des... C'est que la personne, elle ne comprend pas. Est-ce qu'elle doit accepter et subir la malédiction de Adam Rishon ou non? Donc Rabbi Ishmael, il a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, c'est une donnée qui est inscrite à l'intérieur de l'homme, que si un homme ne travaille pas, il ne mange pas. Rabbi Ishmael, il a dit, non, c'est un choix personnel à chacun. Celui qui veut travailler, il travaille. Celui qui ne veut pas travailler, il ne travaille pas. Pourquoi? Il étudie la Torah, il fait ce qu'Hachem lui a demandé, il ne travaille pas. Mais le plus bizarre, il y a de la place. Attention à l'échafaudage. Le plus bizarre, c'est que c'est pas magique. Parce que même chez les laïcs, ouais, il y a des gens qui arrivent à vivre sans travailler. On appelle ça en français des idéalistes. Je sais pas si vous me suivez. Ouais. Donc en fin de compte, la logique est simple. Dans le monde, il y a le matériel et le spirituel. On va dire, il y a l'absolu et il y a le relatif. Maintenant, quelqu'un qui est dans l'absolu, il n'est pas dans le relatif. Même dans la parnassa, oui. Il y a des gens qui vendent du concept et des gens qui vendent de la matière. Maintenant, celui qui gagne beaucoup d'argent, c'est celui qui travaille dans le concept, c'est pas celui qui travaille dans la matière. Tu dis, mais celui qui vend des matières premières, il vend des tonnes et des tonnes de manganèse ou il gagne de l'argent sur la matière. Non. Parce que le problème, c'est pas combien il vend de matière, c'est qu'est-ce qu'il fait avec le cash qu'il a. Il fait de la finance. Donc tu vois, même ça devient un concept. C'est comme le supermarché. C'est pas des magasins pour produire pour vendre de la marchandise. C'est des masses énormes, c'est des banques. Parce que les gens, ils viennent déposer leur cash. Oui. Donc eux, ils reçoivent une masse de liquide énorme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font traîner à 90 jours, ou là, plus le remboursement des fournisseurs. Donc ils ont de l'argent gratuit pendant 90 jours. Tu sais qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argent gratuit pendant 90 jours? Donc en fin de compte, les grands Carrefour et Auchan et tous les grands distributeurs, en fin de compte, c'est pas des vendeurs. Ils peuvent vendre à prix coûtant, ils s'en fichent. Parce que la marge, ils ne vont pas la gagner sur le produit vendu. Ils vont marger sur la gestion de l'argent qu'on leur a confié, comme les assureurs ou comme les... Donc c'est quoi l'idée? C'est que plus c'est conceptuel, plus ça rapporte. Plus c'est matériel, moins ça rapporte. Regarde Microsoft. Avec un logiciel, regarde ce qu'il a fait comme argent. Bill Gates. Le rave, Bill Gates. Bon. Et en fin de compte, il n'a rien fait, il a juste ouvert une fenêtre. C'est ce qu'il a fait. Imagine, il aurait ouvert une porte. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, et toujours je vous ai expliqué que le olam, le monde, il n'est que machalim, il n'est que des exemples. Donc quand Dieu nous donne un exemple physique, c'est pour qu'on comprenne le pendant spirituel. Donc si tu vois que le conceptuel, il rapporte plus que le matériel, d'accord? Donc tu comprends pourquoi est-ce que le spirituel, il va générer plus d'argent que le matériel. Par exemple, quel est le produit qui génère le plus d'argent alors qu'il n'en produit pas? Hein? Ben, c'est la Torah. Même le fisc israélien, ils ont fait des enquêtes pour comprendre comment il y a tellement d'argent qui passe dans les yeshivot. Alors qu'il n'y a pas un qui travaille. C'est pas possible. Rien que la yeshiva de l'écoute, c'est $1 million par mois. Il y en a, c'est plus. C'est des milliards en bouteille, des milliards. Les gens disent, mais oui, mais c'est grâce aux donateurs. C'est vrai, non? Grâce à Dieu, les donateurs, ils aident. Oui? Mais réfléchis. Qu'est-ce qui est plus fort? Quelqu'un qui arrive à ramasser $1 million en 30 ans en faisant du business, ou quelqu'un qui arrive à convaincre un type de donner $1 million à la yeshiva en 15 minutes? Qui c'est le plus fort? Et la force, c'est pas qu'il est malin, c'est la conviction. Donc la conviction du Rosh Yeshiva pour l'amour de la Torah, elle est plus grande que la conviction du milliardaire qui a mis 30 ans pour ramasser ça. Donc ça veut dire que le monde, il fonctionne selon la conviction. Dans le Hol ou dans le Kodesh. Dans le Hol, celui qui ne croit pas à son produit, celui qui n'a pas d'ambition, celui qui n'a pas de projet, il n'arrive à rien faire. C'est ça la différence entre le patron et l'employé. L'employé, il n'aime pas le risque. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut un patron. Le patron, il prend le risque. Maintenant, quel est le risque? Le risque, l'intérêt du risque, c'est de gagner à peu près 120 fois plus que ton employé. Toi, tu t'énerves, tu dis, oui, mais comment ça se fait? Oui, le communisme et le syndicalisme. Comment ça se fait qu'il y a tellement d'écart entre les salaires? Mais c'est la prise de risque. Lui prend le risque, toi, tu ne prends pas le risque. Tu te dis, comment ça se fait qu'il gagne 5 fois le SMIC par jour? Mais ouvre une boîte, travaille comme un chien, tu vas gagner beaucoup. Tu dis, non, j'aime pas, je ne veux pas avoir peur le soir de ne pas pouvoir assumer. Alors reste à l'employé et prends ton chèque et fais cette mitzvah, ferme-la. Donc c'est quoi la logique? La logique, c'est qu'il y a une force, il y a une conviction, il y a une puissance. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de matériel. Alors au pire, ça sera quelque chose de psychologique. Au mieux, ça sera quelque chose de spirituel. Mais ce que tu vois, c'est que ce qui fait avancer les choses, c'est jamais quelque chose de lourd, c'est toujours quelque chose de léger. Alors c'est ça la bagarre qu'il y a entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ishmael, il dit, il y a des contraintes matérielles auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Oui? Et donc, c'est comme une fonction qui a été créée et qui est venu malheureusement d'une malédiction d'Adam Rishon. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, pas du tout. Il dit ça, cette relation que tu as avec la matière, cette dépendance à la matière, elle est propre à chacun. C'est comme si quelqu'un, par exemple, il dit, mon grand-père était coléreux. Mon père était coléreux. Donc je suis coléreux. Est-ce qu'on est condamné génétiquement par le patrimoine génétique psychologique de sa famille ou non? C'est pas vraiment une question, mais c'est pas grave. Ouais. Parce que j'aurais pu dire si le grand-père était radin. Mais vous voyez, j'étais gentil. Donc c'est quoi l'idée? On va dire mieux encore. Ça c'est en vertical, d'accord? De dire, eh ben, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Mais en horizontal, c'est la même chose. Par exemple, quelqu'un dit, vous savez pourquoi je m'énerve? Parce que les gens m'énervent. Ça c'est de l'horizontal. Ça n'a rien à voir avec les générations d'après. Toutes les générations d'avant étaient des gens calmes, mais toi, t'es nerveux. Et quand on te dit pourquoi tu t'énerves, tu dis, ben, je m'énerve parce que les gens m'énervent. Super, super. Ça veut dire que, en fait, quand tu rentres dans une piscine, ça explique pourquoi t'es mouillé. Ça va? Comprenez cette logique? Jusqu'à quel âge est-ce que je peux être victime de ma réalité? Jusqu'à quand j'ai le droit de dire, je m'énerve parce qu'il m'énerve. Je le frappe parce qu'il ne comprend pas. Je le vole parce qu'il me vole. Jusqu'à quel âge on peut dire à cause et parce que ?
Jusqu'à ce qu'on mûrit.
C'est ça le problème. C'est ça le problème. Comprenez ou non ? Alors maintenant, en horizontal, en vertical, tu dis que c'est à cause des générations d'avant. En horizontal, tu dis que c'est à cause des autres. Mais Rabotai, on a toujours le choix. Même celui que génétiquement il est radin depuis 24 générations, il peut faire un travail de conditionnement pour devenir généreux. Il va aller contre nature. D'accord ? Et s'il va dire, mais il ne peut pas parce qu'il ne sait pas. Mais si, parce que les gens qui sont radins avec les autres, ils sont toujours généreux avec eux-mêmes. Donc il sait être généreux. Il ne sait juste pas avec qui. C'est une orientation. C'est comme un robinet. Au lieu de l'ouvrir de ce côté, tu l'ouvres de l'autre côté. Et ça marche. Maintenant, en horizontal, c'est la même chose. Dans ta réalité de tous les jours, tu peux poser la question. Tu dis, est-ce que je suis obligé de subir ou est-ce que je peux échapper ? Ça veut dire que, est-ce que la réalité, c'est une chose qui s'impose ou est-ce que la réalité est une proposition ? Rabbi Ishmael dit, la réalité, c'est une réalité qui s'impose. Qu'est-ce que tu veux faire ? On est obligé de travailler. Comment on va faire ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va étudier la Torah et on va fixer un temps pour travailler. Rabbi Shimon Baruch dit, non. C'est impropre à chacun. Je vous dis, même les idéalistes, même quelqu'un qui n'est pas religieux, un poète comme ça, il a décidé toute sa vie de vivre dans la bohème, dans la rigolade et dans les copains, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il n'est pas rabbin. Comprenez ou non ? Mais il a un idéal. Ouais. L'autre, c'est un homme politique, il a un idéal, il arrive à faire voter des lois et à débloquer 1 milliard d'euros. Tu dis, mais il n'a rien pour lui. Mais Rabotai, la richesse, c'est d'avoir l'argent ou la richesse, c'est d'avoir le pouvoir de le dépenser. L'autre, il est ministre des Transports. Il peut dépenser 275 000 euros de l'heure. Il est riche. Tu dis, mais c'est pas à lui. Mais il s'en fiche que ça soit à lui. Puisque ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Maintenant, toi, tu travailles pour avoir le pouvoir. Tu as tout le pouvoir de dépenser 500 euros de l'heure. Et lui, il a le pouvoir de dépenser 275 000 euros. Tu dis, mais ça change. Ça n'a rien à voir parce que c'est pas à lui. Mais Rabotai, le jour de la mort, le ministre, oui, et le milliardaire, ils ont la même richesse. Vous savez que dans les linceuls, il n'y a pas de poche. Dans les cercueils, il n'y a pas de tiroir. Comprenez ou non ? Les deux, non ? Les tiroirs, les cercueils, il n'y a pas de tiroir pour mettre l'argent. Pour... Cercueil, la cassette.
Là-bas.
Oui. Non, ça veut dire, moi toujours je donne cet exemple. On est dans, à l'hôpital, dans l'endroit des cancéreux, en phase terminale. Et il y a deux qui sont allongés, d'accord ? Donc les deux ils sont habillés pareil, avec le petit truc en tissu bleu là, ouais, avec un pyjama jetable, et ils sont allongés les deux comme ça, en phase terminale. Alors un il regarde l'autre, il dit, qu'est-ce que vous étiez dans la vie ? Il a dit, j'étais clochard. Toute ma vie j'étais dehors. Et dit, vous, moi j'étais milliardaire. Et ben les deux ils sont pareils. Hein. Ils ont le même cancer. Tu dis, mais entre les deux, ils ont profité. C'est pas évident. Celui-là, il avait un souci pour avoir un bout de pain. Et celui-là, il avait un souci pour avoir 1 milliard pour terminer les 4 milliards pour finir d'acheter cet immeuble. Les deux, ils avaient un souci. Rien que la taille du souci qui a changé. Ça veut dire rien que le trou dans l'estomac, la différence du trou. C'est rien qu'un petit trou ou un gros trou. Mais les deux avaient le même problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en vérité, la question est de savoir, est-ce que la vie, il faut avoir un but ? Et en fonction du but, on va avoir les moyens, oui. Ou dans la vie, non, c'est pas le problème. Le problème, c'est quoi ? C'est de réussir à faire que le moyen devient un but. C'est les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Les gens, ils disent, vous savez, j'aimerais bien faire des choses, mais j'ai pas les moyens. Mais celui qui a commencé quelque chose, il n'avait pas les moyens. Alors comment il a fait pour faire parce qu'il n'avait pas les moyens ? Toujours, je donne cet exemple. Il y a un marin breton de 25 ans. Il voudrait faire la transatlantique à la voile. Mais ça coûte 15 millions d'euros pour faire un beau bateau, un catamaran de 25 mètres avec les préparations. Ça coûte 15 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir trois gros fabricants de médicaments. Ouais, il leur fait une déballe, il leur explique l'importance et le projet et la beauté. 5 milliards, 5 milliards, 5 milliards. En 15 jours, il a ramassé 15 milliards d'euros. toi, tu veux un deux pièces, sur la côte italienne. Ça coûte 150 000 euros. Tu prends le crédit, tu mets 20 ans pour le payer, en payant tes 1253 euros par mois pendant 20 ans. Comment ça se fait que lui, il a mis 15 jours pour avoir 15 milliards d'euros, et toi, tu as mis 20 ans pour payer 150 000 euros? Parce que lui, il voulait faire la transat, et toi, tu voulais faire comme tout le monde. Tu dis, mais je vais pas avoir, j'ai honte. Ils me disent, tiens, t'as pas acheté le deux pièces? Ah oui, moi aussi, j'ai un studio en bord de mer. Mais en vérité, tu vas jamais y aller. Mais c'est pour dire que t'en as un. Rabotaille, c'est pas chaud. Est-ce que c'est le but qui amène les moyens, ou est-ce que c'est les moyens qui amènent le but? On appelle ça la conviction. Oui? Or, la conviction, ça se passe dans la tête, ça se passe pas dans les poches. Celui-là, il est convaincu, celui-là, il est pas convaincu. Pour ça, je vous avais raconté toujours que l'hôpital Hadassa, en Israël, il a été payé à 80% par une femme qui n'avait pas un dollar. Mais elle a dit, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un grand hôpital en Israël. Elle a été voir des donateurs, elle a ramassé. Alors, je vous rappelle qu'un petit appareil de radiographie, ça coûte 100 000 dollars. Donc, quand vous marchez dans un hôpital, vous dites, à cet étage-là, il y a 2 millions, à cet étage, il y a 4 millions, c'est très cher. Et tu te dis, mais comment il a fait? Puisqu'elle n'avait pas, l'argent. Elle n'avait pas l'argent, mais elle avait la conviction. Elle a dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Là, j'ai eu un cas. Un type, il avait un procès pour sa maison. Et il a dit, je ne veux pas faire le procès. Sa femme, elle lui dit, on va faire le procès. Elle ne voulait pas, il ne voulait pas. Ils ont perdu le procès. Il a perdu 45. Il doit payer maintenant 45 000 euros. D'accord? Il a dit, c'est à cause de ma femme. C'est à cause de toi, donc on va divorcer, on vend la maison et on partage. Mais je ne veux pas payer la dette. C'est toi qui la payes parce que c'est à cause de toi. Je lui ai dit, écoute, il voulait divorcer à cause de ça. Je lui ai dit, écoute, dis-moi, si ta femme, maintenant, elle a attrapé l'oralénou de maladie, on ne peut pas la soigner en France. Le seul endroit où on peut la soigner, c'est à Los Angeles. Il n'y a pas de sécurité sociale. Ça coûte 45 000 euros l'opération. Tu vas dire, c'est trop cher, il faut que tu meurs. Ou tu vas dire c'est à cause de toi si on s'est appauvri. C'est-à-dire quoi à cause de toi? C'est que dans ton mazal, le bon Dieu, il a dit on va faire un prélèvement de 45 000 euros. Maintenant, tu le refuses, mais on l'enlève quand même. Maintenant, comme tu n'arrives pas à l'accepter, tu le mets sur ta femme. Comme tu aurais pu le mettre sur ton mari, ou le Aïnara de ta belle-mère. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est comme si toi, tu dois payer les impôts. Et l'inspecteur des impôts, il te dit, vous pouvez payer en chèque. Oh, tu dis, oh. Et si vous voulez, vous payez en liquide. Alors le type, il dit, ah, ça va mieux. C'est la même somme. C'est comme quand ta femme, elle te dit, tu sais, c'est 4 000 euros, mais on peut payer en 4 fois. Je ne sais pas pourquoi les femmes, ça les soulage. C'est la même somme, mais c'est en 4 fois. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est le même prix. Elle dit, mais c'est 4 000 euros. Il dit, oui, mais tu payes en 4 fois. Mais c'est toujours 4 000 euros. C'est bizarre, c'est un esprit comme ça. Genre que quand on fait durer, l'addition elle est moins longue. Mais c'est faux. Donc c'est quoi? C'est rien que dans ta tête. Non, c'est exactement pareil. Maintenant toi tu t'angoisses pour les 45 000 euros. Mais quand tu les payes avec joie, c'est la même somme. Quand tu dis, mais combien ça coûte un mariage? 20 000 euros! Et bien au lieu de les donner au docteur, tu les donnes au traiteur. Et bien voilà, qu'est-ce que tu veux maintenant? Mais ils vont sortir, mais si, ils vont sortir. Donc c'est quoi le problème en vérité? C'est pas le problème lui-même de l'argent. Le problème, c'est la relation que tu entretiens avec. Comme la vie. C'est pas l'épreuve qui est difficile, c'est la relation. C'est pas la valise qui est lourde. C'est ta flemme, c'est ta paresse qui la rend lourde. Comprenez ou non? C'est pas ta femme qui t'énerve, c'est toi qui es nerveux. C'est pas tes enfants qui sont des incapables. C'est toi qui n'arrives pas à comprendre quel est leur rythme d'évolution. Ils ont leur rythme. Maintenant, toi, tu exiges d'un enfant de 8 ans qui a une maturité de 32 ans. C'est pour ça que tu t'énerves. Tu es décalé. Oui, tu es décalé. T'as qu'à te recaler. Comme si ouais, la voiture dans la côte, elle monte pas. Mais elle monte pas, elle monte pas. Mais si, une côte comme ça à 38%. C'est pas une voiture qui monte à 38%. C'est ça, ça s'appelle un avion. Donc tu t'énerves contre quoi? Tu t'énerves contre la réalité. C'est une réalité. Alors Rabbi Shmuel, il a dit, la réalité, c'est la réalité. On ne peut rien faire. Rabbi Shmuel Bar Yochai a dit, non. La réalité, elle concerne ceux qui sont prêts à la subir. Alors la Gemara dit, Arbe Asuk et Rabbi Shmuel Bar Yochai, Velo Alta Beyadam. Il y en a beaucoup qui ont voulu faire comme Rabbi Shmuel Bar Yochai, ça n'a pas marché. Il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shmuel et ça a marché pour eux. Alors comment ça marche? T'as compris ou? Alors la première chose, c'est que quand c'est marqué, il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça n'a pas marché. Les commentaires, ils disent, tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il voulait étudier la Torah, ouais. Il s'est mis dans une grotte. Il y a un arbre qui a poussé, un caroubier qui lui a donné des fruits pendant 12 ans. Il y a une source d'eau qui est sortie, il avait de l'eau. Et lui, il a étudié la Torah. Et pour pas user ses vêtements, il s'enterrait dans la terre jusqu'ici. D'accord? Et il sortait le vendredi pour mettre les habits du Shabbat. C'est tout. Donc ses habits de la semaine, c'était la terre. Et son habit du Shabbat, c'était les vêtements qu'il avait gardés. Il a vécu comme ça pendant 12 ans. Donc le caroubier, c'était un miracle. Et la source d'eau, c'était un miracle. D'accord? Tu dis, oui, mais c'est normal puisqu'il a eu un miracle. Mais c'est l'inverse, Rabotai. C'est parce qu'il s'est sacrifié qu'il a eu un miracle. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On attend le miracle pour se sacrifier. Comme avec Avraham Avinu. Vous avez raconté déjà ça, oui? Vous vous rappelez ou non? Avraham Avinu. Vous savez que Nimrod lui a proposé, il lui a dit, ou tu rejettes tes croyances, ou tu meurs dans un bûcher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas brûlé. D'accord? Pourtant, il était prêt à mourir. Il était prêt à mourir. Il n'est pas mort. Son neveu, il a vu ça. Il a vu qu'il ne brûle pas. Il a plongé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a brûlé. Il est mort. La bouteille, ça veut dire que celui qui est prêt à mourir, il va vivre. Celui qui est prêt à mourir, il va vivre. Mais celui qui n'est pas prêt à mourir, il va mourir. Mais je comprends pas, ça pourrait être l'inverse. Mais donc la vie, c'est comme ça. Celui qui prend le risque de perdre, il va gagner. Mais celui qui prend pas le risque, il va perdre. C'est-à-dire qu'il est prêt à perdre. Il est prêt à mourir. C'est pareil. Celui qui dit la vérité, ouais, il prend le risque, on ne le croit pas. C'est pour ça qu'il préfère mentir. Mais celui qui est prêt à se faire avoir en disant la vérité, on le croit. Et celui qui ment, alors qu'il dit une chose qui a l'air vraie, on ne le croit pas. Parce qu'il ne veut pas prendre le risque de la vérité. Les champions, c'est des gens qui prennent des risques. Les gens les patrons, c'est des gens qui prennent des risques. Les adultes, c'est des gens qui prennent des risques. Donc qui c'est qui gagne? Celui qui prend des risques. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à mourir. Celui qui n'est pas prêt à mourir, il va mourir. Et les planqués, ils ne font jamais rien de leur vie. Wallo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Messirut Nefesh. Il n'y a pas de sacrifice. Or, la logique, c'est quoi? C'est que pour donner le meilleur de soi-même, il faut donner le meilleur de soi-même. Ça va? Non. Pour donner le meilleur, il faut sacrifier le pire. Regardez le mariage, par exemple. C'est quoi la torture du mariage? La torture du mariage, c'est que la personne que t'épouses, elle veut de toi le meilleur. Donc en fait, elle t'énerve en te disant, mais j'ai confiance en toi, je sais que tu peux faire mieux, je veux que tu sois sincère. Et toi tu dis à ta femme, mais chérie, mais pourquoi tu fais ce boulot bidon? Tu peux faire mieux. Après, pourquoi tu t'énerves avec les enfants? Je sais que tu as de la patience. Donc en fin de compte, ce qui t'énerve chez l'autre, c'est qu'il attend de toi que tu donnes le meilleur de toi. Mais quand tu donnes le meilleur de toi, c'est bon pour toi. Ouais. C'est ça qui est fou. Donc en fin de compte, les gens qui te demandent de grandir, ça t'énerve. Par contre, les gens qui te maintiennent dans ta nullité, en te disant c'était super, t'es quelqu'un d'extraordinaire, tu les adores ceux-là. Donc en fin de compte, comme tu n'aimes pas prendre des risques, tu n'aimes pas les gens qui te poussent à évoluer, ouais, par contre tu aimes les gens qui te disent reste comme tu es extraordinaire. Alors que ceux-là, ils te poussent à la mort. Parce qu'il n'y a pas plus immobile qu'un mort. T'as déjà vu un cadavre? Il ne bouge plus, hein. Il est vraiment déterminé dans son choix. Alors je pose la question, pourquoi mourir de son vivant? Et un têtu, c'est quelqu'un qui est mort de son vivant. Mais alors quelle différence s'il est têtu parce que c'est caractériel, s'il est têtu parce qu'il manque de respect de lui-même, s'il est têtu parce qu'il n'a pas l'ouverture d'esprit que si, de comprendre que s'il est juif, eh ben, il pourrait étudier la Torah puisqu'il est juif. Puisqu'il est prêt à faire une licence sur l'avenir du passé, ou alors un doctorat sur la culture des tomates en Mésopotamie ancienne, ou un doctorat de mathématiques sur des théorèmes et des logarithmes qui ne se sont pas applicables mathématiquement. Le mec, 28 ans, il a fait là-dessus. Mais il n'y a aucune application. Mais c'est juste par amour de la connaissance. Alors, JH2. JH2, ça veut dire jeune Hamar au carré. Oui. Si tu es... C'est une formule chimique. C'est une formule chimique. JH2. D'accord. Non, des fois, c'est des niveaux de bêtises qui sont concentrés dans un volume. Tu dis, c'est pas possible d'en mettre tellement dans si peu de place. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est simplement pourquoi? Parce que la personne, elle n'arrive pas à être en accord avec sa conviction. Ou alors, elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui l'emmène, qu'est-ce qui l'emporte. Elle dit, c'est ça le problème. C'est qu'en réalité, tout le monde est d'accord qu'il y a du spirituel et du matériel. Tout le monde est d'accord qu'il y a le fond et la forme. Tout le monde est d'accord qu'il y a le but et qu'il y a le moyen. Tout le monde est d'accord. Le seul problème, c'est rien que la chronologie. Est-ce que c'est les moyens qui amènent le but ou est-ce que c'est le but qui amène les moyens? Est-ce que c'est la conviction qui développe le projet ou est-ce que c'est le projet qui amène la conviction? C'est ça le problème. C'est tout. Dans toutes les religions, dans toute la vie, c'est la même chose. C'est rien que ça. Or, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu commences par le côté matériel, oui, il y a un piège. C'est que tu peux t'arrêter dedans.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est comme quand vous donnez à un enfant, par exemple, vous donnez à un enfant un problème de mathématiques. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il voit. La maîtresse a 24 élèves. Elle doit acheter 19 cahiers. Elle dispose de 12,50 € et de 6 € d'avoir auprès du libraire. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il voit 32, 19, 24 et il commence à faire des calculs. Tu dis, attends, tu n'as même pas lu la question. Lis l'énoncé et après tu vas résoudre. Vous n'avez pas remarqué ça? Tous les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent? Vite, je vais faire les calculs. Ça, tu dis, c'est normal, il a 8 ans et demi. C'est pas évident. Alors, on veut lui apprendre à bien lire l'énoncé, à comprendre quelle est la situation, après à comprendre quelle est la question, et après à faire les calculs. Ça va? D'abord la théorie, après la pratique. Ça, c'est quel âge? 8 ans et demi. 38 ans et demi, même problème. Il a une idée. Il a 100 000 euros, tac, il achète la marchandise, il loue le local, il envoie la publicité. Attends, fais une étude de marché. Et calcule combien ça te rapporte. Peut-être si tu mets 11 millions d'euros de pub, tu n'as plus de quoi payer tes employés. Et la première année, les impôts, ils vont te bouffer. Alors, d'abord, tu essaies de bien regarder l'énoncé. Après, de comprendre quelle est la question qu'on te demande, c'est-à-dire quelle est ta part à toi. Et après, prendre dans le business. C'est pareil. Ton fils, il fait une bêtise, deux bêtises, trois bêtises, 15 bêtises, 35 bêtises, 40 bêtises. Toi, tu t'énerves. Ah ! Filmé. D'abord, tu lis l'énoncé. Après, tu essaies de comprendre qu'est-ce que l'enfant il veut te dire à travers ce comportement. Et après, tu résous le problème. Ça va? Maintenant, la vie, c'est un énoncé. Le bon Dieu, c'est le professeur. L'épreuve, c'est l'exercice. L'énoncé, c'est ce que tu perçois. Essaye de comprendre qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu. C'est quoi la question? Non, tout de suite, tu veux mettre en application. Alors tu plantes une fois, deux fois, trois fois. Pourquoi? Parce que tu n'as toujours pas décidé qu'est-ce qui compte. Est-ce que c'est de résoudre le problème, c'est-à-dire les moyens, ou est-ce que c'est de comprendre quel est le but? C'est quoi le but? Moi je vois des gens, ils viennent. Grave, il faut que je vous parle. Ils parlent pendant une demi-heure. Voilà comme ça, et voilà comme ça, et voilà comme ça, et voilà comme ça, et voilà comme ça. Je dis, j'écoute. Après je dis, excusez-moi, quelle est votre question? Je dis, enfin, ça fait une demi-heure que je vous parle. Je dis, vous m'avez donné une situation, mais vous m'avez posé la question. Depuis une demi-heure, vous me dites que votre mari est un abruti. Et maintenant, vous me dites que vous voulez le shalom. Mais c'est impossible, puisqu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on n'admire pas. Donc maintenant que vous l'avez traité de chmar pendant une heure, vous me dites comment vous allez avoir le shalom. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on n'admire pas. Oui? Tu peux pas casser ta femme pendant 3 jours et après dire, je voudrais m'arranger avec elle. Mais tu peux pas. Depuis quand on tombe amoureux d'une serpillière? Une serpillière. Spongia. Maintenant, tu l'as rendue comme une spongia. Elle est brune, elle est lourde, elle est radine, elle est bête, elle est moche, elle est grosse, elle est truc. Après, tu dis, mais quand même, je voudrais le shalom. il n'y a plus le shalom, il reste has, ses deux cousins, has mais shalom. C'est deux. Tu ne veux pas. Quand tu parles mal de ton mari, tu dois trembler, tu dois être mal. Moi, j'ai des femmes qui m'appellent, elles m'ont dit, ah, mais je suis désolé de devoir vous dire ça, mais c'est les ma'ana shalom, c'est pour que vous compreniez, pour que vous m'aidiez à trouver des solutions, à prier Dieu pour qu'on trouve. Elle a peur, elle a mal de parler mal de son mari. L'autre, il a mal de parler de sa femme comme ça. C'est difficile. Mais si tu parles gentil, facilement, tu dis, elle est bête, il est méchant, il est bel, il est rabdin, il est lourd, il est... Puis après, tu dis, on voudrait faire le shalom. C'est pas possible. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se pourrissent la vie, après ils te disent, est-ce qu'il y a une solution? Ils voient noir leurs enfants, ils disent, comment on va faire pour les éduquer? Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es embourbé dans les moyens, tu as oublié le but. C'est quoi ton but? Ton but, c'est le shalom. Alors, tu fais attention de garder l'admiration. Ton but, c'est l'éducation. Alors, tu n'as pas une image noire de tes enfants. Ton but, c'est la parnassa. Alors, tu dois savoir pourquoi tu travailles. Tu dois être clair. Le vrai problème, c'est le manque de clarté. Et le Satan, il adore ça. Parce que dans le flou, lui, il fait ce qu'on appelle de la dérive existentielle. Au début, tu es rentré en médecine pour apprendre à soulager la douleur. Au bout de 5 ans de médecine, tu veux absolument faire de l'argent. Alors, où il est passé le but premier? Je vous ai dit déjà, c'est quoi un bon médecin? Un bon médecin, c'est pas quelqu'un qui a eu des bonnes notes à l'examen de médecine. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui a un bon diagnostic. Maintenant, il y en a, ils connaissent tous les livres par cœur, oui, mais ils ont un diagnostic bidon. Qu'est-ce qu'ils font? Tu dis, écoute, en fonction des symptômes, je vais te donner une panoplie de médicaments, il y en a bien un qui va te soigner si les autres ne te tuent pas. Ça, c'est le médecin général. Le bon médecin, il te dit, tu as ça, tu prends ça. Et si mieux encore, il te dit, tu as rien, ne prends rien. S'il peut. Ouais. Mais si tu dis, écoute, il faut que je lui donne le maximum, comme ça il va croire que Jean, je m'occupe bien de lui. Après, il te dit, tu sais, ce que tu m'as donné, depuis que j'ai pris le truc, j'ai des vertiges, j'ai les reins qui s'arrêtent, j'ai l'estomac qui est truqué, j'ai des brûlures. Tu dis, je sais pas, tu me soignes ou tu me tues? Pourquoi? Parce que le bon médecin, il a un diagnostic. Or, le diagnostic, c'est quoi? C'est une espèce de roi HaKodesh, d'esprit divin, qui fait que tu vois exactement qu'est-ce qu'elle a le problème. Quelle est la problématique? Et tu vas me dire, mais quel rapport avec le roi HaKodesh? Il n'est même pas croyant. Et Rabotai, tu n'as pas besoin d'être croyant, puisque tu crois dans ton projet, tu crois dans ton but. Or, la croyance, c'est quoi? C'est la lumière de la Neshama. Maintenant, quand la lumière de la Neshama, elle traverse ton cerveau dans un but qui s'appelle de soulager la douleur, alors il y a un message qui s'allume dans ta tête, c'est ça la maladie. C'est pour ça que Rav Olbe, il dit un chesed shalem, zekim atroa hakodesh. Celui qui fait un chesed comme il faut, c'est-à-dire qui donne à la personne ce qu'elle doit recevoir, au moment où elle doit recevoir, de la manière dont elle doit recevoir, c'est roi hakodesh. Pourquoi? Parce que là, c'est quoi roi hakodesh? C'est quoi l'esprit divin? Il est prophète. C'est quoi l'esprit divin? L'esprit divin, c'est que la Neshama, elle voit tout. Le problème, c'est que le Nefesh, le psychique, il contient l'orgueil, la bêtise, l'entêtement, la lourdeur. Et le corps, il contient l'envie, les passions, les intérêts personnels. Donc, ce qui fait, c'est que la lumière de la Neshama, elle a deux abat-jours qui empêchent la lumière de sortir. Maintenant, quand quelqu'un, il fait vraiment pour l'autre, oui, pas pour lui à travers l'autre, pour l'autre. Alors, il a rendu transparent son abat-jour psychique, son nefesh, ça s'appelle Messirut Nefesh. Il a rendu transparent son abat-jour physique, donc il n'y a rien qui empêche la lumière de la Neshama. Donc, il va voir exactement ce que l'autre, il a besoin. Ça s'appelle Kim'at Ruach HaKodesh. Vous avez compris ou non? Il s'appelle ça l'intuition. Comment t'as su? Mais c'est exactement les mots qu'il fallait faire. C'est les mots qu'il fallait dire. C'est les gestes précis. C'est ce que l'autre, il a besoin. Eh bien, c'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que malgré toute la technique médicale que Dieu a développée, malgré toutes les écoles de commerce que tu as appris, malgré toute la Torah que tu as étudiée, tu n'as pas oublié quel était ton but. C'est ça la différence. Parce que même dans l'étude de la Torah, il y a des gens qui savent ce que Dieu a dit, mais ils ne savent pas ce que Dieu veut. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi on va avoir des lignes? Parce que le gadol, il a da'at Torah. Maintenant, il peut être un hamor nosé sfarim. Un âne qui remplit de livres. Il porte des livres. Il connaît toute la Torah entière, mais il n'a pas le da'at Torah. Comme l'autre, il connaît toute la médecine, mais il n'a pas le diagnostic. Celui-là, il a fait toutes les écoles de commerce, mais il n'a pas le sens de la négociation ou la gestion. Il ne sait pas, il n'arrive pas. Il connaît les logarithmes, il a calculé les courbes, il peut te faire des schémas. Tu lui dis, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met 1 milliard dans la communication ou on change les machines? Fais comme tu sens. Pourquoi? Il a oublié le but. Et ça, Rabotai, c'est la dimension spirituelle des choses. T'as compris ou non? Alors moi, je vous ai donné un échantillonnage très large. Parce qu'en vérité, c'est la même chose. Quand tu te maries, il y aura des hauts et des bas. Il ne faut pas perdre le but. Quand tu éduques les enfants, il y aura des hauts et des bas. Il ne faut pas perdre le but. Le but, c'est d'amener un enfant à 20 ans sous la choupa, sadique, intelligent et autonome. Il faut que tu fasses ça. C'est ça le but. Maintenant, à 8 ans, il a été déçu. À 14 ans, il a été renvoyé de l'école. À 16 ans, il a fumé en cachette. Ça, c'est les hauts et les bas. Mais qu'est-ce, t'as amené quelqu'un sous la choupa ou t'as amené un brel? C'est ça. Il ne faut pas oublier le but. Vous vous rappelez l'exemple du bateau qui monte et qui descend avec le capitaine et le mal de mer? J'ai donné cet exemple ou non? Non? Je ne sais plus. Je parle tellement, je ne sais même plus où je parle et quand je parle. Dans samedi soir, j'étais à Jérusalem. Jeudi soir, j'étais à Ashdod. Mercredi soir, j'étais à Eilat. Ce soir, je suis avec vous. La semaine d'avant, j'étais à Montréal. Et j'étais à New York. J'étais à Paris. Et j'étais à Lyon. Je ne sais plus très bien où je suis. Mais là, je sais que je suis avec vous. Ça, c'est ce qui compte. Où je serai demain, je ne sais pas. Mais je vous donne la règle. Il y a un type qui a payé 14 000 euros pour faire une croisière en mer. Une belle croisière. 14 000 euros pour une semaine. Manque de peau, la mer n'est pas belle. Et il vomit. Alors, il est en train de vomir. Il cherche le capitaine dans tout le bateau en vomissant. D'ailleurs, on peut le suivre à la face. D'accord. Il arrive dans la cabine du capitaine, et le capitaine, tranquille, en pleine tempête, avec sa pipe et son café noir. Deux raisons de vomir, d'accord? Et l'autre, il rentre. Mais capitaine, je porte plainte contre la compagnie, quel est votre problème? J'ai payé 14 000 euros, je suis en train de vomir depuis 3 jours, arrête, réglez-moi ça! L'autre, il dit, mais monsieur, vous avez payé la prestation sur le bateau, vous avez payé le traiteur, mais vous n'avez pas acheté la mer. Donc si la mer est démontée, eh bien vous êtes dans la mer. C'est la mer, il n'y a rien à faire. Ouais. Bon, il se calme un petit peu. Au bout d'un moment, il dit, mais je ne comprends pas, monsieur le capitaine, comment ça se fait que vous ne vomissez pas? Il dit, je vais vous expliquer. Vous voyez, la mer, quand elle est démontée, il y a ce qu'on appelle le haut de la vague et le bas de la vague. Le creux de la vague et le haut de la vague. Maintenant, le bateau, il monte en haut. Après, il descend. Et il monte, et il descend. Donc la mer, elle monte et elle descend. Le bateau, il suit la mer, il monte et il descend. Il a dit, moi, je suis le bateau. Vous, pourquoi vous vomissez? Parce que vous refusez que le bateau, il suit la mer. Donc les gens qui refusent leur vie, ils sont tout le temps en train de vomir. C'est ta femme. Quel est son principal avantage? C'est qu'elle te ressemble. C'est pour ça que tu la supportes pas. Ce sont tes enfants. Mais c'est ta part nasale. Tu dis, j'en ai marre. Mais c'est ta part nasale. Le bon Dieu l'a décidé. Cette année, tu vas gagner tant. Ouais, t'as un mazal de 1000 euros. Oh, t'as un mazal de 1 milliard. Quoi? Mais 1 milliard? Mais pourquoi lui 1 milliard et moi 1 euro? Et il a dit Confucius, colloir de mazalo. D'accord? C'est ça, c'est un mazal. Alors, il y a un mazal. Maintenant, il y a deux genres de mazal. Il y a le mazal qui est une épreuve pour que tu le dépasses. Et il y a un mazal parce que c'est ça, c'est ta réalité. C'est comme le type qui est blond dit, pourquoi je suis pas brun? Celui qui est un homme dit, pourquoi je suis pas une femme? C'est ton mazal. Et comment j'ai pu épouser une khmara pareille? Mais tu dois avoir un petit côté hamor. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc c'est bien, les choses vont bien. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit de mélanger deux genres, vous savez. On ne peut pas mettre deux animaux différents à un attelage. D'accord. Donc toi, dès que tu as eu l'âge, tu t'es marié avec elle. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'à chaque fois, il y aura toujours la dimension but et la dimension moyen. Maintenant, quand toi, tu acceptes ton but et tu t'y tiens, on va t'envoyer les moyens. Quand tu refuses, donc numéro un, tu n'arrives plus à vivre le but. Et deuxièmement, on ne te donne pas les moyens. Après, tu dis, on ne m'a pas aidé, c'est la inara, ça ne marche pas. Mais toi, déjà, tu n'y crois même pas. Toi-même, tu n'y crois pas. Comment veux-tu que le client, il achète, alors que toi, tu ne crois pas à ton produit? Comment veux-tu que le propriétaire, il te laisse encore la location, alors qu'il voit toi-même que tu n'es pas convaincu d'aller au magasin? Comment veux-tu que la banque, elle te prête 1 million d'euros, alors que toi-même, tu ne sais même pas si tu pourras rendre les 100 euros qu'on t'a prêtés? Vous comprenez cette logique-là? Donc pourquoi est-ce que le bon Dieu, il serait plus compliqué que le banquier? Puisque le banquier, il a été créé pour que tu comprennes le bon Dieu. Donc quand tu es convaincant devant le bon Dieu et que tu es convaincant devant le banquier, c'est la même chose. Or la règle, c'est quoi? Convaincu, convaincant. Pas convaincu, pas convaincant. Alors est-ce qu'il y a au moins une personne que tu arrives à convaincre? Il dit, mais qui? Mais toi. Et quand tu arrives à te convaincre à toi, tu arrives à convaincre l'autre. Et la conviction, encore une fois, ce n'est pas une question de moyens. Vous avez compris ça? Il dit, ça, c'est quoi le problème? C'est qu'en vérité, on est pris dans un dilemme, ce qu'on appelle. D'un côté, on est d'accord qu'il y a une ishtadlout, il y a un effort à fournir, on est dans un monde physique. Voilà, la feuille, elle ne tient pas toute seule. Il y a un support. Donc, il a fallu que je l'amène d'ici jusqu'ici pour le mettre. D'accord. Ça s'appelle l'ishtadlout, ça s'appelle l'effort que l'homme doit fournir. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle le bitachon, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Donc, un homme, il est d'accord qu'il ne maîtrise pas tout. Et donc, il y aura toujours la part de Dieu. Et un homme, il comprend que l'homme, il doit intervenir. Donc, il y aura toujours la part de l'homme. Le problème, c'est quoi? C'est la proportion de la part de Dieu et de la part de l'homme. Vous voyez? Quelle est la proportion? Et deuxièmement, la chronologie au niveau des priorités. Est-ce que c'est la part de Dieu qui conditionne la part de l'homme ou est-ce que c'est la part de l'homme qui conditionne la part de Dieu? Fatigué. Quand on dit, quand l'ishtadlout augmente, le bitachon baisse. Quand l'effort de l'homme il augmente, alors la confiance en Dieu elle baisse. Maintenant, quand la confiance en Dieu elle augmente, eh ben, l'effort de l'homme il baisse. Ça s'appelle des montants compensatoires. Et c'est dans tout séparé. Tu es le meilleur médecin du monde. Il te dit, mais je ne peux pas vous garantir comment va évoluer la maladie. Alors tu dis, à quoi ça vous servez vos études? Même le médecin, il te dit, mais moi, monsieur, j'accompagne le malade. Maintenant, est-ce que ça va être le Aleno, un cancer fulgurant? Ou est-ce que ça va être une longue maladie qu'on aura le temps de traiter? C'est pas des prophètes, c'est des médecins. Comprenez ou non? Alors, quelle différence entre le docteur qui accompagne la maladie, oui, et toi qui accompagne ton mazal? C'est-à-dire que quelque part, on est spectateur de ce que la vie nous propose. Ça va? Maintenant, est-ce qu'on doit être un spectateur actif ou un spectateur passif? C'est ça la question qui pose Rav Dessler. Rav Eliyahu Dessler. Alors, à l'époque, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yisrael Goldstein, qui était à Épinay, à Rosh Kollel, un très grand Hacham. Je lui ai dit, écoutez Rav, je dois faire un cours sur la Parnassa. Il m'a dit, est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Il m'a dit, je vais te raconter une histoire. Je dis, bon. Je pense que quelqu'un, il connaît tout le chasse par cœur. Son père, c'était le bras droit du Briscoe. Lui, il a écrit, ils ont fait la Chita Mekoubetset à Mevoueret. C'est lui qui a fait les tikkunim de Baba Kama, 10 ans. Baba Kama. Il a écrit les commentaires sur le Mitra Trinour. C'était une tête incroyable. Il m'a raconté cette histoire. Donc, quand un Mitra raconte une histoire, c'est pas comme Gad Elmaleh quand il raconte une histoire. C'est pas la même chose. Parce que les gens disent, oh, c'est juste une histoire. Il a dit un jour, il y avait dans un village, ouais, un shtetl, ce qu'on appelle, ou un mela, ouais, il y avait un peu là-bas un juif qui était un peu le rigolo de la synagogue, de la communauté, c'est lui qui faisait des blagues. Et un jour, il avait un compte à régler avec sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, au lieu de faire comme ça un petit truc, un coup de vis à ma femme, il a dit, je vais faire un truc bechorma. Il a été voir la femme du rav, mais il a été voir sa femme d'abord. Il a dit, écoute, tu sais, chérie, j'ai rencontré la femme du rabbin, ça fait 3-4 fois déjà. Elle me dit, comment ça se fait que ta femme ne vient jamais me voir? Alors, moi, je lui ai dit, écoutez, elle est gênée, tout ça. Il dit, non. Alors, la femme du clown, elle a dit, bah, écoutez, moi, je vais aller la voir, puisqu'elle veut, tout ça, c'est normal, c'est honteux pour le cas de la femme du rabbin, je vais aller. Alors, lui, il dit, écoute, vas-y, mais juste, je te préviens d'une chose, c'est qu'elle entend pas bien. Donc, il faut parler tout de suite très fort, parce que sinon, elle va se vexer. D'accord. Après, il va voir la femme du rabbin, Il dit, écoutez, madame, la femme de la rabbinine, j'ai un problème, c'est que ma femme m'a dit, mais comment ça se fait que la femme du rabbin ne me dit jamais bonjour? Ah bon, mais c'est pas normal, kavod haberiot et tout. Elle dit, il n'y a pas de problème, si elle vient me voir, je la reçois avec plaisir. Elle dit, mais je veux juste prévenir, ma femme, elle est un peu spéciale, c'est qu'elle n'entend pas bien, donc ça ne vous dérange pas de parler fort tout de suite. D'accord. Ils sont rencontrés, bien sûr, une se met à crier, l'autre, pourquoi tu me cries dessus? Elle crie plus fort, l'autre crie plus fort, elle crie plus fort, elle s'insulte, elles se sont crêpées la perruque, ou le chignon, ouais. Ça fait un scandale, une grosse bagarre dans toute la communauté. Et l'autre, il était content. Ah, il a dit, ma femme, elle a pris la tréha. Il était très, très content. Le rabbin, le mari de la femme, il a convoqué, il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à ma femme? Il dit, bah, écoute, j'avais un compte à régler avec la mienne. Je dis, au lieu de lui mettre une tréha ou de lui faire un coup de vis, je lui ai fait un bon truc, vraiment la méadrine. Maintenant, elle a pris un bisayot, machéou. Dis, quoi, tu fais ça? Tu as fait ça juste pour régler un problème avec elle? Il a dit, je te fais un knas, je te fais une amende, je te condamne à marcher une semaine avec des pois chiches dans les chaussures. À l'époque, ils avaient la force. Bon, le lendemain, il le voit marcher. Tranquille. Bon, il a dit, peut-être il n'a pas commencé la bénédiction. Le jour d'après, encore il marche tranquille, encore après. Alors je vous rappelle, quand on achète des chaussures, on les achète à la bonne taille, ils vous vont bien. Quand vous mettez des pois chiches dedans, il n'y a pas la place, donc ça fait mal. Vous ne pouvez pas marcher avec des pois chiches, ça fait très mal. C'est comme, déjà, quand tu as un petit caillou, ça fait mal. Imagine des pois chiches. Au bout de 3 jours, il attrape et dit, dis-moi, je t'ai dit de mettre les pois chiches, quand est-ce que tu vas les faire? Je t'ai fait une xéra. Il a dit, mais je les ai mis. Il dit, comment tu les as mis? Mais tu marches. Il a dit, vous ne m'avez pas précisé, est-ce que je devais les mettre cuits ou crus? Il y en a qui disent que c'est ça la recette de la dafina. Mais bon, je ne veux pas... Détendez-vous. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Mais c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on doit faire des efforts. On va mettre des pois chiches. C'est la ishtadlout. Mais qui t'a dit de faire une ishtadlout qui t'esquinte? Peut-être qu'il faut faire le minimum. Fais du tout cuit. Maintenant, le problème, c'est ça. Il y en a qui sont convaincus que s'ils ne sont pas au travail à 6h du matin et ils ne quittent pas le travail à 10h du soir, ils vont mourir de faim. Eh bien, je te promets que s'ils arrêtent à 8h, ils vont mourir de faim. Il y en a qui ils ont le bitachon que s'ils prennent le téléphone, ils sont intermédiaires dans une affaire à six personnes, et eux, en tant qu'intermédiaires, ils vont prendre $100,000 pour un coup de téléphone. Et c'est comme ça qu'ils travaillent et ils continuent à travailler. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me dis, si en un coup de fil, tu gagnes $100,000, pourquoi tu ne gagnes pas plus? Il ne veut pas. J'ai lu cette semaine dans le journal, Buffet, vous connaissez Buffet? Celui qui n'est pas commode, là. Ouais, Buffett. Ouais, Buffett. Buffett, c'est la prononciation. Vous savez combien il gagne par an? Vous savez ou non? Vous savez pas. On va sortir un petit peu. Arrêtez la yeshiva, toujours les études. Ouvrez vos yeux. Lui, il a un fonds monétaire. Son fonds monétaire, il fait des investissements. Il ne veut pas de commission. Il a un seul salaire, $100,000. Il a dit, ça me suffit, je ne veux pas plus. $100,000. Je lui dis, mais t'es fou. Si tu fais un calvachamor, si déjà le directeur commercial de chez Warren, il prend $6 millions de commission, combien il prend le patron? Il a dit, non, il a dit, je prends ce que j'ai besoin. $100,000. C'est incroyable, non? Et le pire, c'est que le type, à sa mort, déjà de son vivant, il a donné 80% de sa richesse à des œuvres. Quand la Torah demande 20%, tu traites le rabbin de voleur. Alors 80%. Imagine la Torah, elle vient et dit donner 80% de votre richesse, de votre vivant. Tu dis plutôt mourir. C'est le moment ou jamais. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, elle a compris quel est le but à atteindre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après, c'est quoi? C'est quel moyen il faut développer pour y arriver? Est-ce que ça doit être des gros moyens ou des petits moyens? Oui, est-ce que les pois chiches, ils doivent être cuits ou est-ce qu'ils doivent être crus? Et là aussi, c'est aussi dans ta conviction. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que le bon Dieu qui nourrit 6 milliards de personnes, il peut te nourrir aussi. Mais quand tu as un doute sur ses capacités, tu dis, il vaut mieux que je travaille 15 heures par jour. On ne sait jamais des fois qu'il ne soit pas capable. C'est ça le problème. Il dit, c'est pour ça que le Rav Israël, on raconte que le Rav de Rav Israël Salanter, c'est un très grand salut. Il étudiait la Torah toute la journée, toute la vie. De quoi il vivait? une fois par an, il achetait un billet de loterie. Une fois par an, c'est-à-dire il était toute la journée au collège, à l'Eshiva. Une fois par an, il sortait, il allait acheter un billet de loterie. Et tous les ans, il gagnait. Combien il gagnait? Il gagnait exactement ce qu'il avait besoin pour vivre toute l'année. Maintenant, imaginez la situation. Oui, le vendeur de billets. Il voit arriver un petit vieux tous les ans, qui achète un seul billet par an, alors que lui-même, il en achète 19 par jour. Il achète toujours un par an, et tous les ans, il gagne. Il gagne le gros lot, tous les ans. Il paraît que la dernière année, le petit vieux, il a dit au vendeur, « Eh bien, choisissez-le vous. » Il l'a choisi, il l'a donné, et il l'a gagné. Il est mort, le vendeur, il est mort. Ça, c'est le comble, oui. C'est le vendeur, il est mort. Il a dit, « C'est moi qui ai choisi, c'est moi qui... » Alors maintenant, la question se pose, Rabotai. Pourquoi nous, on joue tout le temps, on gagne jamais, et lui, il jouait jamais, il gagnait tout le temps? Ben, le problème, c'est que nous, vous savez pourquoi on ne gagne pas? Parce qu'on joue. Mais lui, pourquoi il gagne? Parce qu'il ne joue pas. Il va chercher son salaire. Regarde, viens, on prend le problème à l'envers. Imagine-toi, tu as travaillé un mois, tu t'es esquinté, d'accord? Tu as fait 344 heures ce mois-ci, d'accord? Avec 6 000 euros de frais et 12 000 euros de primes, plus ton fixe à 7 800 euros. Donc tu t'attends à toucher le paquet. Tu viens voir le caissier, on est le 31, tu dis, bon, Maurice, tu m'as fait mon chèque. Il regarde la liste, il dit, bah, excuse-moi, bah, cette semaine, enfin ce mois-ci, tu n'as pas gagné. Peut-être le mois prochain auras-tu plus de chance. Mais ce mois-ci, tu as perdu et tu n'as pas gagné ni au grattage, ni au tirage. Tu dis, écoute, Baba, j'ai travaillé un mois, 344 heures, si tu ne me payes pas, je te tue. Donc pourquoi il te paye? Tu sais pourquoi? Parce que tu es convaincu que tu dois recevoir cet argent. Eh bien lui, il allait jouer au loto comme dans le même esprit que toi quand tu vas toucher ta paye. Il disait au bon Dieu, moi je vais étudier la Torah. Il faut que je mange. Donc il allait voir le caissier général pour demander sa paye. Maintenant, comme il ne peut pas y aller tous les mois, parce qu'il n'est pas comme nous, il a du temps de regarder la banque, l'évolution du compte, combien on a, combien on n'a pas, combien il a fait le placement. Il ne peut pas, lui, l'occuper, d'étudier la Torah, il n'a pas que ça à faire. Donc, une fois par an, le minimum du minimum, il allait acheter un billet de loto, il gagnait. Je vous dis, il ne joue pas. Il ne joue pas. Si vous allez me dire, mais enfin, ça ne veut rien dire, parce que ça, c'est un très haut niveau, et on parle. Mais encore une fois, c'est dans tout. Pourquoi celui-là, il est sûr qu'il va trouver de l'or? Il trouve de l'or. Celui-là, il sait qu'il va réussir le business. Il réussit le business. Celui-là, il dit, je vais me marier avec cette fille. Mais tu rigoles. Mais t'es moche, t'es petit, t'es gros. Et l'autre, c'est un mannequin. Mais je vais me marier avec cette fille. Il va, il drague, il rigole, il se marie. Tous ses copains, ils disent, mais comment t'as fait? Mais c'est une star. Et toi, t'es moche comme un bou. Oui, oui, mais il était convaincu, déterminé. Oui, c'est pareil, ce vendeur-là. Je vous avais raconté, il y a un rave qui ramassait de l'argent pour des veuves, des orphelins. Il voulait absolument avoir un rendez-vous avec un type. Si c'est en vrai, c'est un copain, moi, je le connais. Et le type, il fait barrage, la secrétaire, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il est parti, il ne revient pas, il ne revient pas, il n'est pas là. Lui, il attend, il le voit qu'il est dans le bureau, deuxième étage. Vous savez ce qu'il a fait? Il est passé par derrière, il est monté par les tuyaux. Il est monté par les tuyaux de dehors. Deuxième étage, troisième étage. Il a tapé à la porte, il a mis un coup de pied, il est rentré comme ça. Il a dit, je veux un rendez-vous avec vous. Le type, il croyait que c'était un hold-up ou un meurtre. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, voilà, j'ai des familles à nourrir, il faut que vous m'aidez. Le type, il a dit, bien sûr. Il a sorti le chèque, il a fait le don. Après, il a dit, mais juste une chose. Il dit, quoi? Je voudrais vous engager, parce que j'ai jamais vu un vendeur qui monte par la fenêtre pour réussir à faire la vente. Comprenez-moi? Le niveau de conviction. C'est exactement pareil. Il dit, maintenant le bon Dieu, il va te donner quelque chose. Maintenant, est-ce que tu dois monter par la fenêtre? Est-ce que tu dois passer 15 heures? Est-ce que tu dois passer 10 minutes? Est-ce que tu dois... Qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, tu vois, le Rav de Rav Israël Salanter, il prenait un billet de loto par an. Mais nous aussi, on prend des billets de loto. Seulement, au lieu de prendre un, on prend 100. Si on prend 100 coups de fil, 100 coups de fil, 100 coups de fil, de toute façon, il n'y en a que deux qui vont marcher. Moi, je connais des gens, avec 3 clients par mois, ils ont leur paye. 3 clients par mois. Mais ils ont quand même fait 80 000 emails, 6 700 contacts, et 183 rendez-vous pour les 3 clients. Pourquoi tu ne fais pas 3 clients, 3 rendez-vous, 3 qui marchent?
Eh ouais, tu sais, ça serait trop beau.
Tu sais pourquoi?
Parce que tu as le temps.
On a le temps. Parce que si on faisait 3 rendez-vous qui marchent, qu'est-ce qu'on ferait pendant tout le reste du mois? Imagine la vie qu'elle aurait notre femme si on est toute la journée derrière elle. Elle te dit, va voir des clients, va voir des clients, rien que va-t'en. Reviens le soir crevé, fatigué, comme ça tu me laisses tranquille. C'est pire, le pire c'est la retraite, c'est connu, dans le mariage. Mais va trouver une occupation, va au bridge, va faire du bateau, construire un immeuble. La logique c'est quoi? C'est qu'en vérité on a besoin donc ça prenne du temps. C'est comme une personne. Et quelqu'un il m'a dit, écoutez, vous pourriez parler à ma cousine. Elle a vu déjà 42 spécialistes de la dépression. Elle n'arrive pas à sortir de la dépression. Il me dit, est-ce que vous voulez la recevoir? Je lui dis, mais d'abord, la question est de savoir si elle veut sortir de la dépression. Peut-être que ça l'intéresse. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire quand elle ira mieux? Vu que ça fait 28 ans qu'elle est malade. Ça doit être confortable un petit peu. Cette logique, c'est que les gens ils ont peur que ça aille mieux. Il y en a, ils ont peur que la paix. Il y avait un couple comme ça qui s'engueulait depuis 15 ans. Il m'a dit, mais Rav Ben Shetrit, si ça va mieux, on va faire quoi? Je dis, ben vous allez vous aimer, vous allez kiffer, vous allez. Écoutez, on a tellement l'habitude de s'engueuler, ça va être difficile pour nous. Tout le piquant de la vie va disparaître. C'est incroyable. C'est que les gens, en vérité, ils ont peur de la paix, ils ont peur du bonheur. Ils ont même peur de la réussite. Je vous dis, moi, c'est l'inverse. Les gens, ils parlent le bonheur, le bonheur, le bonheur. Mais c'est pas vrai parce qu'ils ne se donnent pas les moyens. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le problème à l'envers. C'est qu'en fin de compte, ils ne veulent pas. Parce qu'il faut l'assumer, le bonheur. Il faut être gentil, il faut être sympathique, il faut être proche, il faut être positif, il faut être constructif, il faut être poète, il faut être évolutif, il faut être communicant. C'est dur, le bonheur. Alors que faire la tronche, c'est vachement facile. Tu mets le mauvais caractère le matin, une petite remarque l'après-midi et un mot méchant le soir, t'es tranquille. Tu sais qu'elle va te laisser tranquille pendant moins de 2 semaines. Et quand elle revient, de toute façon, c'est toi qui as commencé, hop, tu gagnes encore 2 semaines. Alors le type, il fait ça avec sa femme ou avec son mari. C'est une chose. Mais il y en a, ils font ça avec les clients. Il y en a même qui font ça avec la vie. La vie. Vous comprenez ou non? Pendant 6 ans, il traîne avec celle-là, il se demande s'il doit l'épouser. Après, finalement, il la quitte, mais il se met avec une autre. Mais il reste avec 4 ans. Mais celle-là, elle est Goya, donc il sait qu'il l'épousera pas. Après, finalement, il se remet avec une juive. Mais pendant 2 ans, mais elle est mariée, donc c'est compliqué. Donc, il dit, facteur commun de toute ton histoire, c'est que tu perds ton temps. Et ça intéresse qui? Que tu perds ton temps. On dit Icar avodat ayetserara les balbel et tadehot ou les basbez et tasman. Le principal objectif du yetserara, c'est d'embrouiller d'esprit et de faire perdre le temps. Donc tu poses la question, pour qui tu travailles? Comprenez ou non? Pour qui tu travailles? Peut-être tu travailles pour la perte de temps. Peut-être tu travailles pour la dépression, peut-être tu travailles pour la bêtise, ou tu travailles pour la gloire, ou la patrie. Alors je te dis, travaille pour le bon Dieu. Parce que quand tu travailles pour le bon Dieu, tu sais ce qu'il dit le bon Dieu? Il dit, c'est pas pour toi que tu fais, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Exactement comme les parents. Quand tu dis, papa, ça y est, papa, j'ai eu le diplôme de médecine. Mais le père, il veut pas que tu sois médecin pour lui, il veut que tu sois médecin pour toi. Et bien c'est comme le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est le seul être au monde qui a besoin de toi pour toi. Parce qu'il n'a pas besoin de toi pour lui. Donc il a besoin de toi pour toi. C'est ce qui est censé comme tes parents. Comprenez cette logique-là? Oui. Et qu'est-ce que tu crois, toi? Tu dis, non, mais c'est par intérêt. Ouais, la religion, elle veut me profiter de moi. Mais tu n'as pas compris. Le bon Dieu, il n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Donc ça ne veut rien dire, il veut profiter. Comme tes parents, si tu vas chez tes parents, tu leur dis, oui, vous êtes bien content de toucher les allocations familiales. Mais mon fils, tu nous coûtes 5 fois plus cher, sans compter les redoublements. Donc, on travaille pas pour les on t'a pas fait des enfants pour les allocations familiales. Rien qu'en perte de cheveux et en cigarette, combien il te coûte ton fils? Donc ici c'est marqué une chose incroyable. Ici c'est marqué que la force de quelqu'un, elle dépend de sa conviction et de sa croyance. Après, l'effort qu'il doit fournir, il va être compensatoire de l'un par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il y a le chomer et il y a la matière, il y a le spirituel. Eh bien, il y a un truc bizarre. C'est que le spirituel, c'est infini. D'accord? Et la matière, c'est fini. D'accord? Vous suivez ou non? Eh bien, pourtant, c'est l'inverse. C'est que quand quelqu'un il est dans l'essentiel, il trouve toujours, tout de suite, quelle est la question. Mais quand quelqu'un il est dans le superficiel, ça lui prend un temps infini. Combien de fois les gens disent, monsieur le rabbin, écoutez, j'ai ça, et ça impliquait ma soeur, mon frère, il y a eu un malaise avec mon père, finalement, j'ai subi le divorce de mon père. Je dis, votre problème, c'est ça. Ouh, effectivement, c'est exactement ça. Pourquoi il y a des gens qui vont à l'essentiel et il y en a qui se perdent dans des masses de superficiels? C'est marqué ici. C'est le piège du chomer, c'est le piège de la matière. La matière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te fait un décor. Et toi, t'es époustouflé par le décor. Alors à l'école, on t'a appris, il faut synthétiser, il faut tirer l'essence des choses, il faut comprendre quel est le sens profond de ce texte. En fait, on t'apprend à synthétiser. D'accord? Eh bien, le synthétique de la situation, c'est ce qu'on appelle le spirituel. Maintenant, toi, tu dois réussir à traverser le matériel sans tomber dans le piège du spirituel. Toi, tu dois garder le sens global sans tomber dans le piège du détail. Comme quand il y a quelque chose à faire. Il y a plein de détails. Alors, des fois, les gens ils se perdent dans les détails. Alors, il faut envoyer le truc, il faut déposer le truc, il faut reprendre le produit, il faut renvoyer le courrier, il faut recevoir le truc. On attend la lettre de le truc, il y a le dédouanement. Ah, j'en peux plus. Tu sais pourquoi? Parce que tu as oublié le sens global. Oh, où tu vas là? Donc, quand tu te perds dans les détails, c'est parce que tu as perdu le sens global. C'est pas grave. En vérité, il y a une trame qui traverse tout. Eh bien, le piège du gâchemi, du matériel, c'est ça. C'est de se perdre dans les détails. Donc maintenant, l'épreuve de la matérialité, c'est d'essayer de garder en tête quel est le but spirituel. Comme toi, tu n'oublies pas quel est ton projet. Comme toi, tu n'oublies pas que c'est ta femme. Comme tu n'oublies pas que c'est ton fils. Tu n'oublies pas, malgré tous les détails. Et cette logique-là, ça, c'est ce qu'on appelle le bitachon. Oui. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est comment on cultive le bitachon. On a posé la question... Quelle est la proportion? Ben c'est très simple, Rabotai. C'est connu que celui qui commence par le matériel ne s'arrêtera jamais. Quelqu'un dit, bon, je fais le magasin, et si Dieu veut, après le magasin, je vais à la yeshiva. Ah bon? Mais le magasin, tu peux l'améliorer. Tu peux améliorer le produit. Tu peux développer la communication. Tu peux prendre une nouvelle équipe de vente. Tu peux créer un deuxième magasin. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc, tu dois fixer une limite dans le matériel. Or, comment on fait? C'est très simple. Vous avez déjà pris une photo? Vous avez déjà pris une photo avec un appareil photo? Ça vous arrive, oui? Il y a un truc bizarre dans l'appareil photo. C'est que quand tu fixes la personne, le reste est flou. Quand tu fixes le paysage, la personne est floue. Alors on dit, le Chafetz Chaim dit, quand on fixe l'essentiel, on fixe le superficiel. Par exemple, quand tu es marié, ta femme elle est nette, toutes les autres elles sont floues. Toutes les autres elles sont floues. Les autres femmes, elles sont floues. La femme, elle est nette. Les hommes qui voient tout le monde, toutes les femmes en net, c'est que leur couple est flou. Ou alors c'est qu'eux, ils ne sont pas très nets. T'as mis ta famille au milieu. Le reste, c'est flou. Ouais. Ça s'appelle l'échelle des priorités. Maintenant, Atakovea est à Icar. Ata, automatiquement, tu définis quel est le tafel, quel est le superficiel. Maintenant, c'est quoi la force aussi du Yitzhara? C'est de changer l'essentiel. Aujourd'hui, tu te dis ce qui compte, c'est l'argent. Après, ce qui compte, non, c'est la parnassa. 15 jours après, tu dis non, ce qui compte, c'est la santé. Après, ce qui compte, c'est le couple. Oh, oh. Alors, moi, je te dis, moi, ce qui compte, c'est la Torah. Tu sais pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit qu'est-ce qui passe avant. La Torah elle te dit, qu'est-ce qui passe avant? Le shalom bayit ou les beaux-parents? Le couple ou les parents? C'est pas évident. Combien il y a de couples qui sont déchirés? Ta mère, elle te dit, ça sera entre elle ou moi? Tu dis, maman, toi tu es ma mère, elle c'est ma femme. Ne m'oblige pas à choisir. C'est elle ou moi? Elle m'a manqué de respect, elle m'a pas téléphoné la veille de Shabbat. Mais elle a couché ce jour-là. Et alors? Et toi, t'es déchiré. T'as la locomotive d'un côté, c'est ta mère, et t'as les 19 wagons de l'autre côté. Tu vas mourir. La Torah, elle te dit. Le shalom bayit, il passe avant les parents. Qu'est-ce qui passe avant? L'éducation des enfants ou la parnassa? Tu dis, mais s'il n'y a pas de parnassa, comment on va faire pour éduquer les enfants? C'est quand même l'éducation. Comprenez ou non? Qu'est-ce qui passe avant, le shalom bayit ou la parnassa? Tu dis la femme quand il n'y a pas d'argent, hein. Ça commence les problèmes. Vous comprenez ou non? Ça veut dire que pourquoi est-ce que tu dois mettre la Torah en priorité? Parce que la Torah, elle te donne l'échelle des priorités. Et tu veux me dire, mais je n'ai pas besoin de la Torah, grâce à Dieu, il y a Goethe, il y a Kant, il y a Platon, il y a Aristote. Je ne sais pas, l'égoïsme, ça fait 5000 ans qu'ils cherchent, ils n'ont toujours pas trouvé. Tous les 10 ans, ils sortent une nouvelle échelle des priorités. Le New Age ou l'approche scientologique ou l'Ahbabed. Mais si le nouveau est vrai, ça veut dire que tout le reste est faux. Et ouais, ça fait beaucoup de faux. Ça, c'est un des défauts de la Torah, c'est qu'elle ne change pas. C'est la même il y a 3000 ans, il y a même la 2000 ans, il y a même la 1000 ans, 500 ans, 10 ans, dans 100 ans, dans... Ça fait partie des 13 articles de foi du Rambam, la Torah, elle ne change pas. Elle ne change pas. Les règles, c'est les mêmes. Les principes, c'est les mêmes. Ça ne bouge pas. Moi-même, les gens ils me disent, écoutez, mais c'est incroyable comment un texte qui a 3000 ans peut répondre à des questions d'actualité. Je dis, mais JG, c'est-à-dire jeune, je bébé. Oui. Mais la Torah, elle n'est pas soumise au temps. Donc elle est intemporelle. Donc elle ne peut pas subir le temps. Donc elle ne peut pas être dépassée par le temps. Parce qu'elle existait avant que le temps existe. Donc même dans la dimension temporelle, elle est restée intemporelle. Donc elle reste absolue. Maintenant, tu dois avoir une référence absolue dans un vécu relatif. C'est ça la vie. Tous les jours, tu as des choix à faire et tu n'oublies pas quel est l'objectif. Donc, alors je te dis la règle. Toi, tu es kovéa, tu fixes le spirituel et ce qui va rester, tu feras du matériel. Parce que si tu commences par le matériel, tu n'auras pas du temps pour le spirituel. Je te dis, moi. Moi, quand j'ai voulu rentrer à la yeshiva, mes oncles, ils sont venus à moi. Un commando. Tous dans les magasins, le business, tous comme ça, ils sont venus comme ça. Ils m'ont dit, oui, Ria, mais pourquoi tu vas rentrer à la yeshiva? Tu as eu ton bac, tu es un enfant intelligent. Fais un métier, et après, va étudier à la yeshiva. Je lui ai dit, je peux pas. Il m'a dit, fais un bon métier, et a fait une situation, et après, étudie la Torah comme tu veux. Je lui ai dit, je peux pas. Il m'a dit, mais apprends un métier, fais-toi une situation, et va. Je lui ai dit, je peux pas. Mais pourquoi tu veux pas? Je dis parce que vous êtes le contraire de ce que vous dites. Vous avez fait le métier, vous avez fait la situation, vous n'avez jamais ouvert une guémara introduite. Ben, parce que tu dis j'ai fait un diplôme, il faut que je travaille. Je travaille, il faut que je développe. Je développe, il faut que je gagne. Je gagne, il faut que je place. Je place, il faut que j'évolue. Ah ben c'est fini. Tu te réveilles, tu as 68 ans, tu dis mais alors, et la guémara, Shifhala, n'existe pas. Et la Kabbalah. N'en parlons pas. Et le Midrash? Il est parti au Midrash. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que Rabotai, ce que tu ne donnes pas le temps, il n'y a pas le temps. Mais ne croyez pas que c'est que dans la Torah. Pourquoi les gens, maintenant qu'ils ont la date du divorce qui est fixée, ils commencent à regarder la valeur de leur conjoint? Maintenant qu'ils ont appris qu'ils ont un diagnostic de cancer, ils commencent à apprécier chaque moment de la vie. Mais on a tous le cancer, vous savez, non? Tout le monde là, ça s'appelle la mort. Vous savez, tout le monde va mourir. Non, vous savez ou non? Vous êtes au courant? Même celui qui arrive en retard toute sa vie, ce rendez-vous, il arrive à l'heure. Donc, puisqu'on sait tous qu'on va mourir, pourquoi on attend que le médecin il nous dit qu'on va mourir pour faire attention à apprécier la vie? Tant que ta femme n'est pas partie de la maison, tu ne penses pas lui faire des compliments. Tant que ton fils il n'a pas commencé à se droguer, tu ne commences pas à lui parler. Et ouais, pourquoi t'attends? On est bizarre, non? Ça s'appelle ça. Atakovea et Aïka. Atakovea et Atafé. Quand tu fixes l'essentiel, tu fixes le superficiel. C'est comme ça. Donc ici, la Torah, elle te dit une chose incroyable. Attention dans quoi tu vas fixer. Pourquoi? Parce que quand tu fixes dans le spirituel, mais tu crois que quoi, toi? Parce que les gens, ils disent, ah, mais si tout le monde rentre à la yeshiva, alors comment le monde, il va tenir? Mais est-ce que tu as déjà été dans une yeshiva? Est-ce que tu as déjà étudié un jour dans une yeshiva? Une fois, il y a un monsieur, il est rentré à la yeshiva d'Aix-les-Bains, à l'époque. Il est rentré, il a dit, oui, vous êtes tous des batlanimes, des glandeurs, des paresseux, toute la journée en train de tourner les pages, alors que nous, on s'esquinte dans les magasins, dans les bureaux, dans les trucs, à travailler comme des fous. Il a dit, viens t'asseoir une heure. Une heure. Il dit, oui, viens t'asseoir une heure. Il a eu peur. Il a dit, Laura, il lui a dit, s'assis. Alors, ils ont commencé. Alors, la Gemara, elle dit ça. Ah bon? Alors, on pose cette question. Ah d'accord. Alors, Rashi, il pose comme ça. Après le Ramban, il répond comme ça. Après, il y a deux questions du Rajba. Il y a un pirouge du Korban Haïda. Le Rav Chaim, il explique de quatre manières différentes. Après, il y a le Ran là-dessus. Le type, il avait une tête. Il a dit, je suis épuisé. Au bout d'une heure, il n'avait plus de force. Il allait mourir. Il a dit, laissez-moi. Attends, il reste encore 7 heures. Il se dit, c'est fatigant. Non, je ne parle pas des gens qui font semblant. Il y a des gens qui font semblant. Ils font de l'air dans les yeux. On dit, serre les yeux. Ver et nénou betoratecha. D'accord. Non, celui qui étudie vraiment, moi je me rappelle. À l'époque, bon, maintenant, aujourd'hui, je passe plus de temps dans les voyages que dans l'étude. Oh, j'espère que le bon Dieu, il compte les heures dans le train. Mais, je me rappelle, on était esquintés de fatigue. On étudiait 9h à 1h30. On allait, on dormait comme si on a besoin d'une nuit de sommeil. Après, à 3h30, on retournait. Il fallait tenir jusqu'à 7h30. Après 7h30, on se reposait encore une demi-heure pour tenir jusqu'à minuit. C'est très fatigant, ça prend les forces. Quand tu étudies vraiment, ça prend les forces. Parce que pour comprendre, il faut que tu mettes toutes tes forces. Alors tu dis, mais alors... Donc, non, t'en fais pas, hein, que tu ne pourras pas faire ça toute ta vie. Donc, gratte tant que tu peux gratter. Mais après, les enfants, ils vont grandir, les obligations, ils vont venir. Il y aura des mariages à faire. Donc, t'en fais pas que tu vas recevoir un coup de pied dans le derrière. Et si tu peux gagner, si tu peux conserver 3 heures ou la 2 heures, c'est extraordinaire. Oui? Pour ça, on te dit, Kavarta et Tim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps pour l'étude de la Torah? Tu sais que ça, c'est une question qui est très bizarre. Dans le Shulchan Aruch, là-bas, oui, c'est marqué qu'il y a une mitzvah de l'Ikvoa et Tim la Torah. C'est une mitzvah de fixer un temps. C'est marqué dans le Midrash que quand quelqu'un va arriver là-haut à 120 ans, on va lui demander Kavarta et Tim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps pour la Torah? Alors il pose des commentaires, il demande, mais pourquoi on dit Kavarta? Il fallait dire la Matta Torah. Et c'est vrai qu'après on va t'interroger sur ce que tu connais, ce que tu connais pas. On va t'interroger. Mais pourquoi on a posé la question, est-ce que tu as fixé? Il dit le Roche, il dit un commentaire incroyable, c'est très grave. Vous êtes prêts ou non? Il a dit, celui qui n'a pas fixé, même s'il a étudié, c'est pas évident que son étude elle a une valeur. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il t'a donné la vie, la santé, la parnassa, pour que tu étudies la Torah. Maintenant, quand toi, tu dis la Torah, c'est principal. Tu dis, j'étudie 2 heures. C'est quoi fixer? Fixer, c'est j'étudie 2 heures. Ça veut dire, je coupe le téléphone. Même s'il y a un cas de force majeure, même s'il y a un client à 1 million de dollars, j'ai coupé le téléphone. Maintenant, pourquoi est-ce que tu vas être récompensé? Pour l'étude que tu as étudiée ou pour le fait que tu as mis la priorité sur la Torah? Vous suivez ou non? C'est pareil. Pourquoi c'est ta femme? Pourquoi c'est ton mari? Tu dis, mais je l'aime bien. Non, c'est pas que tu l'aimes bien. Tu l'aimes. Maintenant, est-ce qu'il y a une deuxième que tu aimes comme elle? Oh, bah tu sais, j'aime tout le monde, moi. Non, l'amour de la femme, il doit être différent. L'amour du mari, il doit être différent. Vous comprenez ou non? C'est spécial. Ça s'appelle Kavua. C'est ça, Kovea. Attaque, c'est Kovea. C'est tes enfants. Tu aimes tous les enfants, mais c'est tes enfants. C'est tes enfants. C'est Kovea. Comprenez ou non? Oh, je crois dans plein de choses. Je crois en la vie, je crois au bonheur, je crois au temps, je crois au tsunami. Ouais, mais est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Alors ta croyance en Dieu, elle doit être plus forte que ta croyance dans le tsunami. On ne peut pas dire c'est sûr. Parce que c'est très très dur d'avoir une gviout, pas nefesh, de fixer les choses. Fixer, ça veut dire il n'y a rien qui va faire bouger ça. Ben, c'est ça la bracha. La bracha, c'est quoi? C'est que tu véhicules une énergie qui te traverse. Maintenant, ça vient par quoi? Par le but. Maintenant, on est en train d'expliquer maintenant comment est-ce que quelqu'un il réussit à atteindre ce but. Alors, je te dis. Il dit, quand quelqu'un il fixe dans le spirituel, oui, ce qui va rester, ça sera pour le matériel. Quand quelqu'un est fixe dans le matériel, il n'y aura plus de place pour le spirituel. Parce que le matériel, il augmente sans arrêt. D'accord? C'est comme quelqu'un qui a peur. Par exemple, quelqu'un qui a peur, et bien plus il a peur, plus il a peur. Ah, il a peur, il dit j'ai peur. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Comment il fait pour enlever la peur? Il arrête la peur. Même quelqu'un qui est peur. Toujours je donne l'exemple du chien. Vous rappelez l'exemple du chien? Un type toute sa vie, il a eu peur des chiens. Depuis qu'il est petit, il a peur des chiens. Même maintenant, il est grand, il fait 1m90, 180 kg, il a peur des chiens. Il y a un pitbull qui vient. Il crève de peur. Il va faire pipi sur lui. Mais il est avec son fils de 6 ans et demi. Comment il va faire? Donc il a deux solutions. Soit il se jette dans les bras de son fils. Et le fils, il a du mal. Il dit, papa, j'arrive plus. 1m95. Soit il va se mettre devant le chien, il va dire, dégage! Alors là, maintenant, en fait, qu'il est devenu un homme grâce à son fils. T'as compris cette logique, là? Voilà. Mais toute la vie, c'est comme ça. Tu peux être devant ta femme, dire, elle m'énerve. Tu dis, oh là, c'est la femme. C'est ma femme, c'est la mère de mes enfants. Je t'adore. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'adore. J'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Tout va bien, t'es extraordinaire. Mais tu m'as dit pour le découvrir. C'est pas grave. De toute façon, on va tous crever un jour. T'as retrouvé. Comprenez ou non? C'est pareil. Tu dis, on vient chez toi, on te propose une business, un travail, une magouille, on t'embrouille, on te fait boire du vin. Après, tu dis, oh, je suis juif, quand je vais faire ça? C'est Hiloul Hashem. Tu as retrouvé le contact. Et bien, le contact avec l'essentiel, c'est celui-là qui génère la bracha. C'est pour ça que c'est marqué, Kiddusha mevia l'aide bracha, et Touma mevia l'aide znout mevia l'aide aniout. La débauche amène la pauvreté, et la pureté amène la bracha. Or, c'est quoi la pureté? La pureté, c'est le lien avec l'essentiel. Et la Touma, c'est toujours le lien avec le superficiel. Parce que t'as beau dire, elle est magnifique, elle est super belle, elle est... Mais t'es quand même tout seul en train de t'exciter devant un film dégueulasse. Tu dis, non mais tu sais, elle est vraiment belle. Non mais t'es un malade mental. T'es marié, t'as une femme, et t'es en train de regarder une femme toute nue sur un site spécialisé en charcuterie ou... La situation en elle-même, elle est débile. Vous comprenez ou non? Elle est débile. T'as des besoins, tu dis, mais je suis un homme, elle m'excite. Mais tu es marié, va chez ta femme. Qu'est-ce que tu fais à 4h du matin en train de regarder un truc dégueulasse? Tu vois, ça n'a pas de sens. C'est ça la Touma. Et comme ça n'a pas de sens, ça amène la pauvreté. La pauvreté. Znout mevi les derniers. Par contre, la Kedusha, c'est quoi la Kedusha? C'est qui la source de la Kedusha? C'est le bon Dieu, puisqu'il est Kadosh. Donc quand tu mets la Kedusha dans une situation, en fait tu mets le bon Dieu dedans. Or comme le bon Dieu, en même temps qu'il est Mekor à Kedusha, il est Mekor à Beracha, il est la source de la Beracha, donc tu mets la Beracha. Je racontais, il y a un type comme ça, il avait rien, il avait zéro. Il a été voir un rab à New York qui est très très connu pour les conseils de business. Il a dit, rab, j'ai 4 ans, je suis marié, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, le rab, il a dit, je te prête 10 000 dollars, tu fais un business. Qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, tu veux faire du téléphone, des ventes par téléphone, des assurances ou je sais rien. Il a dit, mais je te dis deux conditions. Première condition, tu prends un building à New York, là-bas à Manhattan. Tu prends un étage, tu mets les hommes, un étage, tu mets les femmes. Il dit, mais c'est des goyim. Mère, pas. Tu mets un étage juif, les goyim, oh là là, les femmes, un étage des hommes. Pas de mélange. Et la cafétéria, tu mets glad kasher. Il me dit, mais des goyim. Je te dis, glad kasher, la cafétéria. Première année, 80 millions de dollars de bénéfices. Première année. Hein. Je dis, mais c'est trop. Même la moitié, ça me suffit. Mais toi, tu dis, oh ben écoute, ce qui se passe entre les vendeurs et tout ça, c'est pas mon problème. Hein. Ils sortent ensemble, adultère, pourriture, décolleté, mini-jupe, c'est pas le problème. Non, l'autre, il fixe les règles. Les hommes à un étage, les femmes à un autre étage. Vous devez vous habiller correct. Bon, ça va, non? Non, 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 c'est correct, c'est comme ça, vous ne devez pas aller travailler ailleurs. Il a mis la Kedusha dans la boîte. La bracha, elle vient avec. C'est comme ça. Tu veux la Touma? Il y aura des amusements, il y aura des rigolades. Tu pourras sortir avec la secrétaire. Mais la hanout, le découvert, toute ta vie à découvert. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de bracha dans cette business. Pourquoi? Parce que c'est marqué ici. Il dit la meilleure manière d'amener la bracha, c'est d'être kovéa. Ouais. Comment on est kovéa? C'est très simple. Tu fixes le spirituel. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Regarde un juif. Tu sais qu'on a un chokhardar, vous êtes au courant. Donc le matin, tu ne peux pas sortir chez toi sans faire les bénédictions. Après, tu es obligé de faire la prière. La prière, tu es obligé de mettre les téfilines, de faire le krat shema. Après, il y a le premier kadish, deuxième kadish, cinquième kadish. Après, il y a les nouveaux shabéach. Après, il y a les. Tu es obligé. Donc après, tu dois rentrer, faire le manger. Quand tu manges, il faut que tu fasses le berkat Amazon. Après, tu rentres au travail, il faut que tu travailles honnêtement. Il y a des halakhot, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu as fait? Le temps, écoutez bien, le temps que tu as pris sur la prière, tu aurais pu être au magasin. Le temps que tu as pris sur les téfilines, tu aurais pu être au magasin. Le temps que tu as pris sur mincha, tu aurais pu faire le magasin. Donc qu'est-ce que tu as fait en vérité? Tu as fixé le spirituel. Tu dis, mais pendant que j'étais à faire shacharit, j'aurais pu faire 3 clients. Mais dis-moi, qui c'est qui amène les clients? Le client, il peut rentrer chez toi, il peut rentrer chez l'autre. Il y avait un type comme ça. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, je vais étudier tous les matins. Je dis, mais comment ça se passe pour l'instant? Il me dit, ben, j'ai un bureau toute la journée. Il me dit, je vais mettre une secrétaire. Je dis, ben, mets une secrétaire le matin qui prend les rendez-vous. Et l'après-midi, tu vas voir les clients. Il m'a dit, non. Il dit, non, je vais fermer le matin. Rabotaille, il avait un enregistreur. Il n'avait plus d'appels le matin. Ils n'avaient que l'après-midi. Mais le même chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a dit, j'ai compris maintenant. C'est où je vais décider ou je ne vais pas décider. Pareil, c'est dans tout. C'est comme si quelqu'un il va dire, maintenant, deux fois par semaine, je vais passer l'après-midi avec les enfants. Ah, mais ce n'est pas évident, la société. C'est comme tu veux. Tu peux aussi leur donner du shit ou... C'est comme tu veux. C'est une logique. Tu fixes des priorités. Ouais. Tu dis avec ta femme, deux soirs par semaine, on sort. Mais on va se voir, on va se faire des kiffs. Un week-end tous les 6 mois, on part tous les deux. Mais comment on fait avec les 14 enfants? Pourquoi? Parce que ton couple, il en a besoin. Si tu dis, c'est pas grave, chérie, je prends sur moi. Tellement elle a pris sur elle que même le voisin l'a pris sur elle. Voilà, ils sont partis les deux. Donc je te dis la logique. Il faut être kovéa le rouhani. Maintenant, le fait de fixer le spirituel, c'est un exercice de bitachon. Parce que c'est pas évident d'aller faire la prière alors que tu pourrais encore chercher un client. Donc quand tu dis je vais à la prière, c'est comme si tu dis au bon Dieu, moi je fais ma part, toi tu fais la tienne. Comme l'étude de la Torah. Par exemple, c'est le Nefesh HaChaim, il dit à quelqu'un avant d'étudier la Torah, avant, il doit faire une petite prière. À part le Yiratzon qu'on lit, ouais, qui est écrit au début de la Gemara, il faut faire une prière, qu'Hachem y m'aide à voir clair, à comprendre les bonnes questions. C'est pareil. Toi, quand tu rentres au bureau, ouais, tu sais que tu as ta démarche clientèle, tu sais que tu as ton fichier, tu sais que tu as tout, mais fais une petite prière avant. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et après, tu prends ton téléphone. Maintenant, tu peux tomber sur un contact à 1 million d'euros ou sur un contact qui va t'acheter des boîtes. Bon, tu dis, c'est pas grave, si Dieu veut un jour, il m'achètera des bijoux. D'accord. Non, c'est il fait ce qu'il veut le bon Dieu derrière le téléphone. Ben cette logique là, c'est quoi? C'est parce que toi, t'as montré, c'est pas que t'as seulement pensé, c'est que dans ton vécu, tu as fixé que le bon Dieu y décide. Maintenant, si toi au fond dans ton cœur, tu penses que ça dépend pas du bon Dieu, ouais, mais dans ta culture, tu crois que ça dépend du bon Dieu, ça marche pas. Parce que le bon Dieu, il va pas en fonction de ce que tu penses. Il va en fonction de ce que tu penses. Le problème, c'est est-ce que tu penses que tu penses? Peut-être que c'est de la culture. Peut-être que c'est des habitudes, des coutumes. On a l'habitude, on embrasse la mezouza. Mais tu aurais pu embrasser le thermomètre, c'était pareil. Quelqu'un, il est covert, il fixe. Alors je te dis comment? Parce que quelqu'un, il fait des exercices de bitachon. C'est pour ça que la Gemara a dit que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont dit, pourquoi est-ce que Hachem, il donnait la manne tous les jours? Il aurait pu donner la manne une fois par an. Il a dit, c'est pour qu'un homme, tous les jours, il lève les yeux vers Hachem. Parce que c'est quoi pour le bon Dieu la parnassa? C'est rien. Regardez la preuve. Quand un enfant, il est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il travaille? Non. Jusqu'à l'âge où il travaille pas. Qui c'est qui le nourrit? c'est ses parents. Pourquoi le bon Dieu lui a envoyé des parents? Vous vous rendez compte que la majorité des enfants du monde sont nourris par leurs parents. C'est un miracle. Oui ou non? Non, c'est normal parce qu'on s'est habitué. Mais si ça avait été le contraire, si à partir de 3 ans, on laisse les enfants se débrouiller, comme les petits lionceaux, là, les singes, ils n'ont pas les allocations familiales. De Parasque. Oui, tu manges des cacahuètes, s'il n'y en a pas, tu te débrouilles. Donc c'est quoi la logique? C'est que le bon Dieu, il te montre que de la même manière que l'enfant, il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il y a ses parents. Après l'adulte, il ne doit pas avoir peur parce qu'il sait qu'il y a le bon Dieu. Alors comment ça se fait que l'homme, il n'a pas peur quand il est enfant et il a peur quand il est adulte? Tu dis parce qu'il a sur qui compter. Eh bien, on t'a donné 20 ans pour apprendre à t'habituer à compter sur le bon Dieu et non pas sur tes parents. Nous, ce qu'on appelle l'autonomie, qu'il soit autonome, ça s'appelle le bitachon. T'as compris cette logique-là? Il dit maintenant, ça, cette logique-là, c'est exactement pareil. Donc, il faut prendre le problème à l'envers. Il ne faut pas dire que le bon Dieu, il va t'envoyer la manne si Dieu veut. Il faut dire le contraire. Il va dire, mais c'est normal qu'il t'envoie la manne. Puisque toi, tu fais ce que tu as à faire. C'est pour ça que dans la manne, il y avait un phénomène bizarre. Il y en a qui l'a trouvé devant la porte, il y en a qui l'a trouvé à 10 km. Pourquoi 10 km? Parce que pendant 10 km, il se demandait, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas trouvé devant la porte? C'était le temps de réfléchir. C'est pareil. Il y en a, il a la maladie, il trouve devant lui le docteur. Il y en a, il est obligé de faire 44 médecins. Il doit réfléchir. Celui-là doit se marier. La première, il se rend compte. L'autre, il a fait 63 shidduchim. L'autre, il croit que c'est parce qu'il n'a pas trouvé ses chaussures à son pied. Non, c'est parce qu'en fait, il a un pied coupé. C'est peut-être qu'il ne veut pas se marier. Parce qu'il ne trouve pas. Genre, la perfection. Pourquoi tu es parfait, toi? Donc, tant que tu n'auras pas compris que tu n'es pas parfait, tu n'es pas prêt à te marier. Il veut toujours mieux. Mais est-ce qu'il est mieux, lui? Donc, en bouteille, c'est pas shoot. C'est que la vie, elle est faite pour que toi, tu arrives à te regarder dedans. C'est comme si tu arrives, par exemple, dans la cage d'escalier et tu vois un gorille devant toi. Ah! Ouf! Mais au Hachem, tu t'es rendu compte que c'était juste un miroir. Et bien, c'est comme ça la vie. La vie, c'est un miroir. Donc, maintenant, un jour, tu comprends que les épreuves, elles sont là pour te faire grandir. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque que vous remarquerez, moi j'ai remarqué de mon petit niveau, c'est que souvent, les gens qui n'ont pas de problème d'argent, ce sont des gens qui n'ont pas de problème d'argent. Vous avez remarqué ça? Par contre, les gens qui ont des problèmes d'argent, souvent, c'est des gens qui ont des problèmes d'argent. Hein? C'est-à-dire que les gens qui ont un problème relationnel avec l'argent, qui font un problème avec l'argent, ils ont des problèmes d'argent. Mais celui qui, quand il fait de l'argent, il ne regarde pas l'argent. Il regarde son projet, il regarde le développement, il regarde ce qu'il arrive à faire avec, à ce qu'il arrive à apporter, il arrive à développer. Ce qui l'intéresse, c'est sa chaîne de produits, c'est le développement des magasins, ou alors c'est la Zdaka qu'il arrive à faire, ou ce qu'il arrive à apporter. En fin de compte, il n'a pas de problème d'argent celui-là, puisqu'il ne regarde jamais l'argent. Mais l'autre, il compte les centimes, il compte les dollars, il compte les euros. Il a le souci, il a l'angoisse, il ne gagne pas d'argent. Parce qu'il a un problème avec l'argent. Or, les gens qui ont un problème avec l'argent ont des problèmes d'argent. Donc la bracha, c'est de comprendre que l'argent n'est pas de l'argent. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut avoir la conscience, mais il ne faut pas avoir le souci. Il faut avoir conscience de l'argent, mais il ne faut pas avoir le souci de l'argent. Parce que la conscience de l'argent, ça mène le professionnalisme, mais le souci de l'argent, ça mène l'ulcère. Tu dis, mais c'est pareil, la conscience de l'argent et le souci. Non, le souci, c'est la connotation psychiatrique que tu as rajoutée à la conscience, qui n'est pas nécessaire. Tout le monde a des problèmes d'éducation avec ses enfants. Mais tu n'es pas obligé d'avoir un souci d'éducation. Tu dois avoir la conscience de tes obligations de parent. Mais pas l'angoisse d'être parent. Vous comprenez ça? Tout le monde a des problèmes de couple. Mais tu ne dois pas avoir l'angoisse du Shalom Bayit. Tu dois avoir la conscience qu'il faut faire des efforts, il faut se construire, il faut évoluer. C'est normal. C'est pareil. Tu dois avoir conscience que Dieu existe. Mais tu ne dois pas avoir l'angoisse que Dieu existe. Et bien, cette petite connotation, qui a l'air d'être rien du tout, parce que c'est comme une voiture et la couleur, c'est l'angoisse, et la voiture, c'est la réalité, parce qu'il y a quand même conscience qu'il y a un problème, il y a besoin de quelque chose, vous voyez. Et bien, la nuance entre les deux, elle amène la bracha ou le contraire. C'est pour ça qu'on dit « Imen kemah en Torah ». S'il n'y a pas de kemah, il n'y a pas de Torah. Et c'est bizarre, c'est marqué dans Pirkei Avot. Imen kemah en Torah, imen Torah en kemah. Alors, tu, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut la Torah ou est-ce qu'il faut l'argent? On dit, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Alors, qu'est-ce qui compte, l'argent ou la Torah? Alors, en vérité, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Dieu, l'homme, il dit à Dieu, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Et Dieu, il répond, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'argent. C'est normal. S'il n'y a pas de but, il n'y a pas de moyen. C'est comme si tu fais des provisions pour un cadavre. Ça sert à rien. L'autre, s'il a une maladie, il ne peut plus manger. Tu dis, bon, on va acheter quand même beaucoup de provisions. Il ne peut pas manger. Il ne mange pas. Ça sert à rien. Il a un tube et il reçoit du sérum. Tu lui achètes des pâtes, tu lui achètes de la viande. Ça sert à rien, il ne mange pas. Imen kemach en Torah. Imen Torah en kemach. Oui. S'il n'y a pas de but, il n'y a pas de moyen. Après, on a dit, il y a un kalmach homer. Oui. On a dit, la Torah, elle a fixé la recherche à ce qu'on doit gagner. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Mais ça, c'est la même question. Est-ce que quelqu'un, il va gagner? Écoutez bien. Ce qui est fixé à Rosh Hashanah, il va le gagner en fonction de ses efforts ou sans les efforts? Le bon Dieu, il t'a fixé 224 000 euros cette année. Maintenant, si toi, tu penses que si tu ne travailles pas, tu ne les auras pas, je te promets que si tu ne travailles pas, tu ne les auras pas. Mais si toi, tu as la Emouna, ouais, que tu as autre chose à faire que de travailler, des choses importantes, alors tu vas toucher les 224 000 euros. Parce que c'est le projet, il est en fonction du but. Ah, tu dis, mais si tu n'as pas l'argent, mais que tu as le pouvoir de l'argent, tu n'as pas besoin que ça t'appartienne. Donc, si tu as des projets pour 200 000 euros, le bon Dieu va t'envoyer 200 000 euros. Alors, quelle différence que tu les reçois de la banque, ou tu le reçois de donateurs, ou tu le reçois d'un héritage, ou tu le reçois de ton travail? La seule différence, c'est est-ce que tu vas gaspiller ton but pour accéder à tes moyens? Comme les gens qui disent, je gagne 8 000 euros par mois. Ah bon? 8 000 euros, qu'est-ce que tu fais? Ingénieur. Ah, ingénieur, donc tu es déclaré. Ouais, je suis déclaré, 8 000 euros. Combien tu payes d'impôts? 50%, je suis célibataire. D'accord, donc il te reste 4 000. Où tu habites? Ah, j'habite dans les quartiers chics. Combien tu payes? 2 000 euros par mois de loyer. Ah, ta voiture, je suis obligé de prendre une Jaguar. Combien de leasing? 1 200. Qu'est-ce que tu portes? Des conforts? Non, des smaltos. Ah, smaltos, encore 800 euros. Les chemises, je suis obligé. Les trucs de. Alors, en fin de compte, quand tu as enlevé tout ton standing, il te reste combien? 30 euros. Donc tu travailles pour 30 euros. Le reste, c'est le standing. Donc en fait, tu es pauvre. T'as compris cette logique-là? C'est ce qui est marqué en vérité. C'est que, il dit le Chafetz Chaim, c'est comme si quelqu'un il est dans le train, et le train il avance. Ouais? Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais ce que je vais faire? Il se met dans le train qui est en train d'avancer, il pousse le wagon. Est-ce que le train il va aller plus vite? Tu mets, il développe une force physique. C'est comme si quelqu'un il a un tonneau avec un robinet, il ouvre. Il dit, mais je comprends pas. Quand j'ouvre le robinet, ça coule. Alors je vais mettre deux robinets! Est-ce que de mettre deux robinets, ça va augmenter la quantité qu'il y a dans le tonneau? Donc les gens, ils dépensent deux fois plus, ils ont l'impression d'être plus riches. Ils ne sont pas plus riches, c'est le même tonneau. La seule différence, c'est quand tu ne le fais pas pour toi, quand tu le fais pour les autres. Quand tu le fais pour les autres, ton tonneau, maintenant, il ne vient pas de toi, il vient des autres. Celui-là, il a besoin de 5 000 euros par mois, il a 5 000 euros. Maintenant, il a pris sur lui un orphelinat. Il a besoin de 50 000 euros, il a 50 000 euros. Mais son mazal, il est 5 000 euros. Son mazal, il est 5 000 euros. Mais comme il a l'orphelinat maintenant sur la tête, c'est son mazal, il est 50 000 euros parce que maintenant, il a le mazal des orphelins sur la tête. Donc celui-là, il peut rajouter des robinets puisqu'il augmente le tonneau. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dimension du bitachon, oui, c'est celle-là qui est la plus dure à fixer. De la part d'Hachem. Donc les Chachamim t'ont donné un conseil. Ils t'ont dit, dans la Parnassa, fixe d'abord ce que tu dois faire en tant que serviteur de Dieu. Et le reste, tu le fixeras, tu feras la Parnassa. Maintenant, on ne peut pas devenir un serviteur de Dieu à plein temps, tout de suite. Comme ça, quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit, Rav Ben Chetrit, j'ai fini avec ça. Il m'a dit, moi, Rav Ben Chetrit, j'ai écouté votre cours sur l'étude de la Torah, je suis prêt à étudier 8 heures par jour, 7 jours par semaine, toute ma vie. Je dis, t'es prêt à étudier 8 heures par jour toute ta vie? Il m'a dit oui. Je dis, t'es prêt à 8 heures par jour toute ta vie? Il m'a dit oui. Je dis, alors si t'es prêt à étudier 8 heures par jour toute ta vie, étudie 2 heures par semaine. Il m'a dit, ah non. Je vous ai dit que je vais étudier toute la journée pendant tout. Je lui ai dit, non. Tu vas étudier 2 heures par semaine. Après, tu vas étudier encore 2 heures. Après le matin, après la prière, tu feras une heure tous les matins. Après, tu vas rajouter deux heures. Après, tu feras cinq heures. Après l'après-midi, tu feras encore une heure. Dans, peut-être dans trois ans, tu seras à plein temps. Il me dit pourquoi ? Il me dit, Ben Chetri, je vous dis, je vais étudier la Torah toute la journée. Je dis, t'as pas compris, Baba. Pour l'instant, tu as une idée. Mais tu n'as pas encore le niveau de ton idée. Maintenant, si tu te bats tous les jours pour étudier deux heures, tu vas travailler pour devenir ce que tu penses. Et quand tu es ce que tu penses, la parnassa, elle va avec. Tout celui qui saute d'un avion, il vaut mieux qu'il vérifie d'abord s'il a un parachute. Ça serait dommage qu'en tirant sur la manette, il y a les sandwichs qui sortent. Mince, c'était le sac de sandwich. Vous avez compris ? C'est que le bitachon, c'est un chinour, c'est une éducation pour devenir ce que tu penses. Maintenant, quand tu es devenu ce que tu penses, n'aie pas peur. Comme tu n'avais pas peur que deux heures en moins de travail, ils ne vont pas t'enlever ta parnassa, tu pourras arriver à un niveau que même 20 heures de moins, ils n'enlèvent pas. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu deviennes. Parce que le bon Dieu, il n'est pas en fonction de ce que tu penses être. Il est en fonction de ce que tu es. Donc, si tu vas au kollel avec l'angoisse de la parnassa, je peux te promettre que tu vas te crever de faim. Mais si tu vas au kollel avec la conviction que Dieu va te nourrir. Et moi, les gens ils me disaient, mais comment t'as fait un enfant après l'autre, un enfant après l'autre, t'as pas peur? Je dis, écoute, moi, j'ai fait ce que le bon Dieu m'a demandé. Maintenant, lui, il se débrouille. Il se débrouille. Il se débrouille bien, mon prêcheur. Quand il fallait 1000, il fallait 1000. Quand il y a 4000, il y a 4000. Quand il y a 10 000, il y a 10 000. Ce qu'il a besoin, il va faire. Pourquoi? Parce que nous, on fait ce qu'on a à faire et lui, il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, moi, j'ai aucun doute sur ce que j'ai à faire. Donc, j'ai aucun doute sur ce qu'il doit faire. Mais celui qui a des doutes sur ce que le bon Dieu il est capable de faire, c'est parce que lui, il a des doutes sur ce que lui, il doit faire. Donc toi, tu fais ce que tu dois faire, et lui, il fait ce qu'il est capable de faire. Et lui, il est capable de tout. Alors, de quoi t'as peur? Bon. On fait Kaddish. Rabbi Hanania ben Akashor, Mer, Matzah, Gadosh, Bokhul, Takot, Israël, Mefichar, Ribalaim, Soro, Mizvah, Shinema. יתגדל ויתקדש ימי רבה ועלמה דברה חירותי ויבליח מלכותי ויסמע פוקנה ושמיקה משיכה בחייכון וביומיכון ובחייכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש ימי רבה מברך לעלם אמן מיה התברה והשתבר והתפר ותחומה והתנסה והתעדה והתעלה והתעלה שמי לקושה וריחו לעילה מן כל בפתה שירתה לשמירתה ונחמתה דאמרן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי און ועל כל תלמידי תלמידי און דאזקין בריתה כנשתה די בעדך עדן ודבכל אתה ואתה יעל עדה ולכון ולאון חידה וחידה ורחמי מן קודם מרים שמיה ורב ואמרו אמן אמן יהיה שם רבה בן שמיה חיים ושרה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלן עלו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Je m'excuse vraiment que le cours a dépassé l'heure. C'est vraiment prévu à 10h. Donc, à mon avis, il doit être 10h. C'est la montre qui ne doit pas marcher. Donc, la prochaine date, ça sera
le 12 avril.
Le 12 avril, rappelez-vous, après Pessah. C'est pas clair.
L'Eilou Nishmat.
Donc, le cours est dédié à l'Eilou Nishmat de Mazal Bat Esther. Et aussi pour l'unichma de mon père, Avram Shimon ben Simcha. Et
Chaim ben Sarah.
Et Chaim ben
Sarah.
Ben Sarah.
Amen.
L'unichma. Amen.
Ver Batadel.
Ver Batadel. Et pour Ver Batadel.
Amen.